Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans cette chronique jeu du mois de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et comme d'habitude, dans cette chronique, je suis accompagné par Beno FX. Bonjour Beno FX.
Salut Cyrus, bonjour à toutes et à tous.
La forme ?
Bah ouais, écoute, on est la veille d'un jour férié, donc...
Ouais, c'est pas mal, on est bien cool. Là, on est bien. La veille du 1er mai, hein, pour ne rien vous cacher.
C'est ça.
Pas comme si on enregistrait là, à peu près l'avant-veille. On est bien. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un petit côté plus détendu, je trouve, d'enregistrer la veille d'un jour férié.
Ouais, tu te dis que si ça déborde un peu, c'est pas très grave, tu pourras dormir demain matin, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, on va commencer par revenir sur les commentaires de l'épisode précédent. Donc, dans l'épisode précédent, nous avions parlé de Wingspan pour ma part et de Farben en ce qui te concerne.
Tout à fait. Et donc, on a un commentaire de Grovast qui nous a dit qu'il a rapidement écouté la chronique dès qu'elle est sortie et qui nous faisait la remarque que Farben semble assez proche du jeu Dream On qui est sorti en 2017. Mmh. Mais que, voilà, Farben est un compétitif alors que Dream On était un coopératif. Mmh. Mais il y avait un peu le même principe de se souvenir des cartes qu'on a jouées a posteriori en racontant une histoire autour.
Ouais.
Voilà, on s'en est souvenu un peu trop tard de ça.
Oui, on s'en est souvenu, ouais. Je crois, effectivement, juste avant la publication ou peut-être juste après, je sais plus, il y a eu quelques échanges sur cela, qu'il y a quelqu'un qui nous a dit Dream, ah mais oui, on a fait Dream On. Ouais. En fait, moi, j'y ai pas joué. Je sais pas si toi, tu y avais joué.
Non, j'y ai pas joué non plus. C'est pour ça que, enfin, j'ai vu passer, effectivement, et après coup, je me suis dit, ça ressemble un petit peu, mais comme j'y ai pas joué, c'est vrai que la comparaison m'est pas venue tout de suite.
Là, c'est vrai qu'il y a assez peu de jeux qui sont basés sur un principe de mémoire exploitée comme ça, en tout cas.
Ouais.
Je pense qu'effectivement, Dream On utilise ce côté mnémotechnie d'un élément qui permet de te rappeler de quelque chose. Quoi. Dans Dream On, en gros, à la fin, on reconstitue une histoire. Il faut retrouver qui a mis telle carte et pourquoi. Et en gros, au fil de la partie, on construit une espèce d'histoire. Et à la fin, on rembobine et on raconte l'histoire. Et ça permet de se rappeler quelle carte était...
Ouais.
Ouais, je crois, un truc dans ce style-là. Mais effectivement, je n'y ai jamais joué.
Voilà, et puis il dit aussi que il aime toujours nos éclairages et le double avis croisé qu'on peut amener.
Oui, c'est vrai que c'était un peu l'idée de la chronique de pas faire un monologue parce que c'est pas voilà. Et puis éventuellement pouvoir contrebalancer parfois des avis ou poser des questions un peu à la place de l'auditeur quand on connaît pas le jeu par exemple.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Bon, ça marche pas forcément tout le temps, hein, parce que des fois, quand tu connais le jeu, typiquement, t'as du mal à faire le naïf pour poser les bonnes questions.
Mais
bon,
On essaye.
Voilà, donc ensuite, on avait un commentaire de Zap Branigan, qui nous remercie aussi pour le podcast, qui disait qu'il avait testé Wingspan et qu'il avait bien aimé le système de cascade d'action et que ça lui avait rappelé Deus.
Mmh. Ce que j'avais évoqué, mais... un peu à demi-mot parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Deus et j'avais peur de dire une bêtise, mais effectivement pendant la chronique j'ai évoqué Deus qui avait ce système là d'action de plus en plus qui se répétait comme ça.
Ah, effectivement.
Et on a un dernier commentaire de Philippe Leray qui dit qu'il a bien apprécié le format, qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'écouter, donc c'était sa première écoute de jeu du mois.
Oui, pourtant c'est un fidèle auditeur, je crois que c'est un tipeur depuis quelques temps et il écoute pas mal d'autres formats comme quoi
Oui, on a des auditeurs, je pense, qui écoutent des formats en particulier, pas forcément tous les émissions. Donc là, ça montre que c'est le cas. Et il a dit que ça lui a donné effectivement envie d'acheter les deux jeux, même si le prix de Wingspan, effectivement, est un peu plus important que celui de Farben.
Ouais, c'est sûr.
Et il trouvait ça bien qu'on ait présenté à la fois un gros jeu et à la fois un jeu léger. Bon, ce qui n'est pas le cas, effectivement, dans tous les jeux du mois. Hein.
Non, c'est pas tout le temps le cas. C'est vrai que... Bon, globalement, le principe, c'est qu'on prend le jeu coup de cœur du moment, ou alors un jeu auquel on a pas mal joué,
c'est
pas forcément un super coup de cœur, mais voilà, on y a pas mal joué, donc on peut en parler. Et en général, c'est quand même des jeux qu'on aime bien. Quoi. Enfin, ça a toujours été des jeux qu'on aimait bien. Quoi.
C'est ça, ouais. Après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de jouer beaucoup à des gros jeux, donc il y a quand même régulièrement des petits jeux, mais c'est arrivé qu'on présente deux gros jeux.
Voilà, et puis il soulignait aussi notre bonne utilisation, selon lui, du mot jouer et non pas du mot tester. Mmh. Et qu'il faisait remarquer, du coup, par l'intermédiaire de notre chronique, au présentateur des chroniques, l'épisode 10 des chroniques, donc Paul Gara et Dédé Chute, qui eux, à son goût, utilisaient un peu trop le terme tester. Voilà, donc ouais. On va peut-être pas relancer le débat, mais c'est vrai que j'essaie personnellement de plutôt utiliser le terme jouer, parce que effectivement test ça fait un peu technique. Cela dit, sincèrement, des fois, pour cette chronique en particulier, ça m'arrive de tester des configurations, et vraiment de tester, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas du test de proto, quoi. On est d'accord.
Je fais pas particulièrement attention. Je sais que j'ai tendance à l'utiliser de temps en temps, ce mot-là. Mais après, enfin, ouais, c'est pas une volonté spécifique de pas l'utiliser. Mais après, si on arrive à pas trop l'utiliser, c'est plutôt bien, effectivement. Mmh. Il dit qu'il a rien contre ce terme, hein, mais que effectivement, il faut pas à faible dose, quoi. Il préfère que ça soit pas utilisé trop régulièrement.
En fait, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas vraiment de terme qui serait.
Ouais.
Parce que si on dit que tester, c'est pour des protos et jouer, ben, c'est pour les joueurs. Nous, quand on prépare une chronique, c'est vrai qu'on a un regard critique sur le jeu. Et alors, si on ne peut pas dire tester, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Mmh. Tu vois, bon.
C'est vrai.
Très bien. Ben voilà, donc ça, c'était les commentaires de l'épisode précédent. Ben, je te propose qu'on passe à la chronique de ce mois-ci. Alors, de ton côté, tu vas nous parler de.
Je vais vous parler de Chakra. Si vous n'êtes pas assez zen, ce jeu peut vous aider un petit peu.
Ouais, on va tenter de relaxer nos auditeurs ce soir.
C'est ça.
Et aligner vos chakras.
On va faire ça en ASMR.
Ouais, ce serait concept. Mais alors, ouais, comme en général, ça dure quand même une petite demi-heure quand on parle d'un jeu. Ça risque de faire un peu long en ASMR.
On va perdre des auditeurs avant.
Ouais, c'est possible. On le fera en bonus pour les tipeurs.
C'est ça.
Et puis de mon côté, je vais vous parler de Res Arcana. Donc là, ça va être un peu moins zen.
Ouais. Voilà.
Allez, on est parti. On va commencer par Chakra.
Eh bien, c'est parti pour Chakra. Alors, Chakra, c'est un jeu de Luca Crezza qui est édité par Blam. Qui est illustré par Claire Conan. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans environ, pour des parties de 45 minutes à peu près. Voilà, ça va à 2 qui connaissent le jeu, ça va plutôt descendre à la demi-heure, mais on est plus en moyenne sur 45 minutes. C'est à 19,90€, c'est notre partenaire Philibert, mais la malédiction a encore frappé. au moment où on vous présente ce jeu, il est pour l'instant en rupture de stock.
Ouais.
Voilà, donc c'est habituel, hein, pour ceux qui connaissent la chronique. On a souvent un des deux jeux, si ce n'est les deux, qui sont en rupture de stock, victimes de leur succès. Mais bon, c'est plutôt bon signe généralement.
Vous le trouverez peut-être dans une boutique de proximité où oui. Après il y a les fonctions chez Philibert
d'alerte
pour prévenir,
ouais.
D'alerte
quand le jeu est de retour en stock. Puis généralement, même souvent, ils mettent une estimation de la date de retour quand ils savent un peu.
Ouais, quand ils savent. Quand c'est des retirages, souvent.
Alors, qu'est-ce que Chakra ? Donc, Chakra, c'est un jeu dans un univers assez zen, comme son nom l'indique, où il va falloir harmoniser justement ces chakras en récupérant de l'énergie et en les disposant du mieux possible dans ces chakras pour vraiment atteindre la plénitude. Donc, c'est un jeu qui est plutôt un jeu d'optimisation parce que justement, je vais expliquer, mais on va récupérer ces énergies, on va devoir les agencer en les déplaçant. Et du coup, bah, faut réussir à agencer le mieux qu'on peut ces énergies le plus rapidement possible. Puisqu'on va tous jouer le même nombre de tours et c'est celui qui aura harmonisé au mieux ses chakras qui. Alors, dans la règle, ils disent pas qu'il gagnera la partie, mais ils disent qu'il sera le plus zen à la fin ou qu'il aura atteint la plénitude à la fin de la partie. Voilà. Il ne prononce pas le mot gagnant ou point de victoire.
Ah oui, carrément.
C'est...
Ouais,
non, c'est,
ah
oui. C'est. Justement, il tourne sur ce côté
c'est
un peu zen.
C'est intéressant. Hein.
Voilà, pour dire qu'il n'y a pas de gagnant, c'est juste quelqu'un qui est plus zen que les autres, quoi.
Ah, Voilà, ouais, qui va intéresser notre ami Acariâtre, tiens.
C'est
un jeu dans lequel on ne gagne pas.
Non,
enfin, en tout cas, pas selon les règles.
On a plus de, on a plus de points de plénitude que les autres, quoi, mais voilà, c'est pas des points de victoire. C'est pas nommé points de victoire. Bon, moi, je vais les appeler comme ça quand même parce que on comprend pas de quoi il s'agit.
Enfin, mais... le fait de pas baptiser des points de victoire, ça,
oui, oui, ça se fait.
Mais de pas prononcer le mot gagné,
oui,
dans ça, c'est plus, enfin, c'est moins commun, quoi.
C'est vrai.
Intéressant.
Alors, comment ça se joue Chakra? Donc, dans Chakra, chaque joueur a un plateau individuel sur lequel il va y avoir deux zones principales. La zone, justement, des chakras, qui est décomposée... Enfin, c'est des chakras, il y a sept chakras de sept couleurs différentes qui sont reliés, en fait, en colonnes. Voilà, un chakra, puis un autre, etc. Mmh. Avec, au-dessus, une zone d'arrivée des énergies. C'est là où nos énergies vont arriver et qu'on va devoir descendre en fait dans les bons chakras. Et en bas, une zone pour un peu purger les mauvais chakras, parce qu'il n'y a pas que des... Enfin, les mauvaises énergies, pardon. Parce qu'il n'y a pas que des bonnes énergies dans le jeu. Il y a aussi des énergies noires qui nous, voilà, qui nous embêtent un petit peu.
D'accord.
Donc ça, c'est la première partie du plateau. Et il y a une deuxième partie du plateau qui va représenter nos actions qu'on va pouvoir faire justement pour déplacer ces énergies sur nos chakras. Alors c'est un jeu relativement simple à expliquer puisque à son tour de jeu il y a trois actions possibles. Il y a soit prendre une énergie sur le petit plateau central qui sur lesquels les énergies apparaissent. Donc en fait ils appellent cette zone les courants Maya et il y a trois zones de trois énergies, trois colonnes de trois énergies. Et sur ce petit plateau aussi, on va mettre les jetons plénitude, qui sont les jetons sur lesquels le nombre de points de victoire par chakra est indiqué. Il faut savoir que chaque chakra qu'on va harmoniser ne rapporte pas le même nombre de points de plénitude. Et du coup, chaque chakra va apporter entre 1 et 4 points de plénitude, et ça c'est placé au hasard en début de partie, de face cachée. Donc on ne sait pas combien de points de victoire va nous rapporter les chakras qu'on va harmoniser.
Donc, t'as dit entre combien et combien, pardon, t'as dit ?
Entre 1 et 4.
Entre 1 et 4, ouais, quand même.
Ouais, ça va. Donc c'est important, en fait. Il y a toute une partie dans le jeu, je vais l'expliquer après, mais qui est importante pour savoir un peu combien valent les différents chakras. Mm-hmm. Donc il y a 7 chakras et il y a 8 jetons. Il y en a 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4. Et donc on en place 7 et on en met un de côté sans le regarder. Donc voilà, on ne sait jamais s'il va y avoir plus de...
Oui, tu connais voilà, pas le nombre total de points en gros,
ça,
dans la partie possible. Quoi.
Donc sur ce plateau central, il y a ces points de victoire et il y a les énergies qui apparaissent. Donc les énergies sont de 7 couleurs, enfin de 8 couleurs différentes. Les 7 couleurs des chakras plus la couleur noire qui représente les mauvaises énergies. Et donc on va mettre toutes ces énergies dans un sac opaque et on va les tirer au hasard et on va en mettre 3 à chaque fois sur chacune des colonnes de ces courants Maya. Donc la première action possible, c'est de prendre des énergies sur ces courants Maya, sachant qu'on peut prendre entre 1 et 3 énergies, mais que dans le même courant Maya, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une énergie là, une colonne, là, voilà, tu prends dans une colonne, et tu peux prendre autant d'énergie que tu veux dans cette colonne, dans les 3 disponibles, donc tu peux en prendre 1 ou 3, mais par contre, il y a deux règles principales, tu ne peux jamais prendre 2 énergies de la même couleur, donc si dans une colonne il y a 2 rouges, une jaune, bah, tu ne peux pas prendre les 3,
ouais.
Obligé de prendre une de chaque.
On sent que ce serait trop facile déjà.
Ouais, surtout il y a une autre règle après que je vais expliquer qui rendrait ça vraiment trop puissant. Mmh. Et la deuxième règle, c'est s'il y a une énergie noire, tu es obligé d'en prendre. Enfin, s'il y a une énergie noire, tu es obligé de la prendre.
Ah ouais, parce que je me disais, mais du coup, tu dois esquiver trop facilement les noires, mais ok, d'accord.
Non, ouais, s'il y a une énergie noire dans une colonne, tu es obligé de la prendre. Après, comme tu peux prendre qu'une de chaque couleur, s'il y a 2 énergies noires dans une colonne, bah t'en prends qu'une, même si tu prends l'autre gemme qui peut être jaune par exemple, tu vas pas prendre les 2 gemmes de couleur. Donc ça, les gemmes que tu prends par défaut, elles viennent dans ta zone d'arrivée d'énergie, qui sont 3 cases en fait uniques, au-dessus de tes chakras. Donc tu peux mettre jusqu'à 3 énergies quand tu les prends. Il y a une action qui te permet en fait de mettre ces énergies directement sur un chakra. Seulement, j'ai pas expliqué toutes les actions possibles encore, mais la deuxième action possible, ça va être d'utiliser ces jetons actions, qui sont appelés jetons inspiration, sur les actions qui sont présentes sur ton plateau. Mmh. Quand tu décides, au moment où tu prends l'énergie, de la placer directement sur un chakra, tu vas en quelque sorte bloquer un de tes jetons actions sur ce chakra. C'est-à-dire que tu vas avoir moins d'actions possibles. Enfin, tu vas pouvoir en faire moins avant de devoir passer. Parce que la troisième action possible, bah, c'est de méditer, c'est-à-dire passer pour récupérer ses jetons actions. Au début de la partie, on a 5 jetons actions. Donc on va pouvoir faire en quelque sorte 5 actions consécutives sans passer, parce que sans avoir à récupérer ses jetons. Donc voilà, la possibilité de mettre directement tes énergies sur un chakra donné, ça va te bloquer un de tes jetons actions. Donc tu auras un jeton action de moins. Donc tu devras potentiellement plus passer pendant la partie. Donc ça peut être bloquant. Sachant que ce jeton action, tu ne le récupères que quand le chakra sur lequel tu as posé l'énergie, là où il est bloqué, est harmonisé.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Harmoniser un chakra, ça veut dire réussir à mettre 3 énergies de la bonne couleur sur le chakra. Parce que chaque chakra a en fait 3 emplacements. Enfin, il y a 3 cases sur chaque chakra. Et donc, harmoniser un chakra, c'est réussir à mettre 3 pierres de la couleur du chakra sur ce chakra. Une fois qu'il est harmonisé, en fait, le chakra n'existe plus. C'est-à-dire que tu vas l'ignorer dans les déplacements, etc. Puisque, je ne l'ai pas dit, mais les actions qui sont disponibles sur le plateau, donc je sais plus exactement, j'ai 3 ou 4, je crois 5 ou 6 actions possibles sur le plateau. Et donc, à mon tour de jeu, plutôt que prendre des énergies, je peux utiliser un de mes jetons actions et le poser sur une des actions pour faire cette action. Les actions, la plupart des actions, vont servir à déplacer justement les énergies sur mes chakras. Voilà, ça, c'est par exemple descendre une énergie de 3 cases. Donc je prends l'énergie où elle est et je la descends d'un chakra, 2 chakras, 3 chakras, etc. Il y a des actions qui vont permettre de descendre 3 énergies différentes d'un seul chakra. Voilà, il y a tout un tas d'actions, des actions qui permettent de remonter des énergies, il y a des actions qui permettent... c'est essentiellement des actions de mouvement.
Ouais, on imagine bien.
Voilà. Sauf que quand je fais une action, je pose un jeton harmonie dessus, et donc cette action, je vais pas pouvoir la répéter tant que le jeton harmonie est dessus. Donc je vais après utiliser un jeton harmonie sur une autre action différente, qui va être bloquée à son tour. Et il y a un moment, je serai obligé de passer, soit parce que j'ai plus de jetons action disponibles dans ma main pour pouvoir jouer des actions, soit parce que l'action que je veux faire, elle est bloquée déjà par un jeton action. Donc à ce moment-là, c'est la troisième action possible dans le jeu, c'est passer. Ils appellent ça méditer. Et donc dans ce cas, tu récupères tous les jetons actions qui sont disponibles sur des actions. Ceux qui sont bloqués sur des chakras pour pouvoir mettre directement des énergies sur les chakras, tu ne les récupères que quand ce chakra est harmonisé, donc tu ne le récupères pas en méditant.
Attends, mais du coup, pardon, j'ai juste dû zapper un truc.
Ouais.
Tu mets un jeton action sur un chakra quand tu décides de mettre des énergies directement dessus, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Non. Normalement, en fait, tes énergies, quand tu les prends, donc la première action possible, c'est prendre des énergies, tu dois les mettre dans la zone d'arrivée des énergies qui est tout en haut. Donc effectivement, si tu veux les mettre, si tu as des énergies rouges, par exemple, qui est le chakra le plus bas, tu vas devoir faire beaucoup d'actions pour descendre tes gemmes. Par contre, tu peux, à la place, les mettre directement sur un chakra au milieu, ou même sur le rouge tout en bas, si tu veux, etc. Tu peux les placer directement plutôt que les placer en haut, les placer sur un chakra.
Là, il faut que tu sacrifies un jeton. Et
voilà, c'est ça. Là, tu sacrifies un jeton d'action. En fait, il y a des petites encoches sur les côtés du plateau. C'est plutôt bien foutu. Il y a des petites encoches arrondies sur lesquelles tu vas pouvoir glisser ton jeton d'action. Et qui sera là bloqué jusqu'à que tu harmonises l'énergie, enfin le chakra sur lequel tu as posé tes énergies.
Bon, tu gagnes beaucoup de temps quand tu fais ça, mais derrière, tu bloques le.
Voilà.
Tu perds une action potentielle.
C'est ça. Tu te bloques un peu dans ton enchaînement d'actions et dans ton optimisation de tes actions. Quand tu médites, donc quand tu passes pour récupérer tes jetons actions, il y a un autre intérêt, c'est que tu vas pouvoir regarder un des jetons plénitude qui est placé face cachée sur les différentes couleurs de chakras sur le petit plateau du milieu. Donc c'est les jetons qui donnent le nombre de points de victoire que tu vas avoir. Donc là, tu peux zioter une couleur discrètement, il n'y a que toi qui la vois. Et tu peux voir à ce moment-là, par exemple, que le chakra orange, il ne rapporte qu'un point de victoire. Donc peut-être que tu vas pas te focaliser sur ce chakra-là. Sachant que sur les 7 chakras, la partie prend fin quand quelqu'un en a rempli 5. Donc tu vas pas remplir tous tes chakras. Donc c'est là où il y a toute une partie stratégique.
5 sur 7, c'est pas rien quand même, c'est déjà pas mal quoi.
Non mais tu vois, si tu remplis les 2-1, les 2-2 et 1-3 par rapport à quelqu'un qui a rempli des 4 et des 3, forcément tu... Parce que la partie s'arrête quand quelqu'un en a rempli 5, mais c'est pas forcément lui qui gagne la partie, puisqu'après on va compter justement ces points-là, voilà, plus 2-3 autres trucs. Mais ça du coup, il y a toute une partie d'observation qui est intéressante, parce que effectivement en passant, tu vas pouvoir regarder le nombre de points de victoire. Mais quand quelqu'un a regardé des points de victoire et va faire cette couleur-là, tu peux te dire, bon, s'il se fait chier à la faire, voilà, il y a des chances que ça fasse des points, et du coup, ben, je vais peut-être la faire aussi.
Ouais, ouais, c'est Isobretnik qui m'avait parlé de ce jeu aussi, ouais. Et qui m'avait dit que dans sa partie, justement, il y avait quelqu'un qui avait regardé une couleur comme ça, puis qui d'un seul coup s'était mis à, ouais, à la faire. Donc lui, il a fait quoi? Il a fait pareil.
Et puis ça valait un, en fait.
Ouais, c'est ça.
Bon. Ouais, bon, après,
donc ça marche quand les gens jouent bien à la table.
Tu peux bluffer aussi, hein. Si t'es sûr d'être en avance sur le nombre de chakras que tu vas harmoniser, tu peux essayer de bluffer comme ça, mais. Donc voilà en gros les actions possibles, le jeu, etc. Quand on compte les points, bah à la fin, quand quelqu'un est arrivé à 5, on va révéler les points que valent chaque couleur, on va compter ces points là on va également compter celui qui aura fait la plus grosse suite de chakras harmonisés consécutifs à partir du bas, puisque forcément les chakras en bas sont plus chiants à harmoniser parce qu'il y a plus de déplacements.
Ouais, tu m'étonnes.
Donc on va compter si quelqu'un a fait celui du bas plus celui d'après plus celui d'après, s'il en a fait 3 consécutifs à partir du bas, que c'est celui qui en a fait le plus, il va avoir 2 points bonus. Donc là, il y a un joueur qui reçoit 2 points bonus pour ça.
Alors attends, du coup, s'il y a un joueur qui en a aligné 4, dans ton exemple...
À partir du bas
Pas le dernier, par exemple.
Ah bah non, ça compte pas. C'est à partir du dernier, en fait. C'est consécutif à partir du dernier.
D'accord, donc tu comptes que ceux qui ont le dernier, s'il y en a.
Voilà, s'il y en a qu'un qui a le dernier, c'est lui qui a les points. S'il y en a un qui a le dernier plus celui juste au-dessus, tu regardes celui qui en a le plus à partir du bas. Donc ça, c'est 2 points bonus, ce qui n'est pas négligeable quand même. Et ensuite, les fameux chakras noirs qui vont t'embêter, le but, ça va être de les descendre tout en bas, donc en dessous du dernier chakra.
Pas les chakras,
les énergies, pardon, oui, excuse-moi, je mélange chakra et énergie.
Je suis, monsieur.
Oui, c'est très bien, tu fais bien de suivre. Donc les fameuses énergies noires qui nous embêtent un petit peu, le but, ça va être de les descendre tout en bas. Donc il y a une zone, justement, de recyclage de ces énergies négatives qui est en dessous du dernier chakra.
Oui, il faut les mettre avec le caca, quoi, normal.
Voilà, c'est ça. Donc si t'arrives à les mettre là, t'as 2 options. Soit tu la laisses là et elle vaudra 1 point en fin de partie. Les énergies noires qui sont arrivées tout en bas valent 1 point en fin de partie.
Ouais, d'accord.
Ou alors, sur ton plateau d'action, tu as une petite action qui te permet de recycler cette énergie noire en énergie positive. Donc, tu vas défausser l'énergie noire et tu vas choisir dans le sac directement une énergie de la couleur de ton choix que tu vas venir placer tout en haut. Parce qu'elle ne va pas arriver directement.
Ah, tout en haut. Ouais.
Tu la replaces tout en haut.
Ah, c'est, j'allais dire, attends, c'est trop bien. Du coup, tu mets les noirs en bas, tu transformes en rouge. Donc.
Mais ça te permet de recycler les noirs et voilà, de les utiliser. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans les mouvements d'énergie, effectivement, on va déplacer les énergies. Mais si sur un chakra donné, tu as déjà 3 énergies et qu'il s'est pas harmonisé, c'est-à-dire que tu as 3 couleurs différentes, par exemple, et ben, ça va bloquer les déplacements des énergies au-dessus. Ça va un peu te constiper du côté des chakras. Et donc, tu vas pas pouvoir descendre les énergies d'au-dessus tant que c'est bloqué. Donc, tu vas devoir commencer par libérer au moins un espace, donc descendre au moins une énergie là-dessus. Puisque quand tu déplaces, en fait, l'énergie doit pouvoir s'arrêter à chaque déplacement que tu fais.
Ouais, je comprends. Non, je trouve que c'est cette analogie du transit.
Ouais, bah,
finalement,
ils
auraient pu prendre un autre thème. Hein.
Oui, mais ça aurait été un peu moins mignon, je pense.
Un peu moins glamour. Ouais.
Oui, alors les actions aussi que tu dois faire, par exemple, si tu l'action c'est déplacer une énergie de 3 cases, t'es obligé de la faire en entier. Et toutes les actions doivent être faites en entier. Tu peux pas dire je m'arrête à 2 pour arriver sur le bon chakra. Donc ça demande aussi un peu de gymnastique, de réflexion, pour optimiser vraiment ses coûts. Par contre, le truc qui est sympa, c'est quand t'as 2 actions, parce qu'il y a des actions où t'as 2 actions, c'est-à-dire descendre une énergie de 2 et une énergie de 1, tu vois. Ça, par contre, tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Donc potentiellement, en fonction de l'ordre dans lequel tu fais, tu vas pouvoir libérer des chemins. Ou alors, si tu arrives à harmoniser, l'intérêt aussi d'harmoniser par le haut, c'est que comme je le disais, une fois qu'un chakra est harmonisé, c'est comme s'il n'existait plus. Donc quand tu fais des déplacements, tu le sautes, tu ne le comptes pas.
Ouais, donc tu gagnes du temps. Quoi,
tu optimises tes déplacements. C'est pour ça qu'il y a un bonus aussi dans le fait d'harmoniser par le bas, parce que c'est beaucoup plus long. Des fois, il vaut mieux avoir harmonisé 2-3 énergies en haut avant d'attaquer celle du bas pour se déplacer plus vite, justement. Ouais. Voilà pour les règles. Je crois que j'ai rien oublié. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça.
Non, effectivement, ça a pas l'air très compliqué. Ça a l'air plutôt, en plus, assez intuitif, non ? Quand tu joues, je pense.
Ouais, c'est assez intuitif. Les règles que les gens oublient un peu, c'est le fait de pas avoir le droit de prendre plusieurs gemmes du même couleur. Ouais. Ça, typiquement, tu vois, ça peut être très puissant. Imaginons, t'as une gemme rouge qui est déjà placée, Et ben, si tu prends deux gemmes rouges, que tu utilises une action pour la mettre sur le rouge, l'énergie est harmonisée immédiatement, tu récupères ton jeton action. Donc ça, tu vois, c'est un peu...
Un petit peu too much.
Sachant que c'est une erreur que j'ai faite sur ma première partie, quoi. Enfin, j'avais joué en festival, on m'a expliqué les règles.
Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on appelle une triche sur festival, ça.
Non. Alors, en festival, j'ai joué correctement parce qu'on m'avait expliqué les règles. Par contre, de retour chez moi, avec la boîte de jeu, j'ai réexpliqué les règles en lisant le livret rapidement. Et du coup, j'avais zappé ce point-là. Et donc, on a tous joué en pouvant prendre... prendre plusieurs gemmes, mais du coup, voilà, c'est très bourrin. Genre, ah bah là, il y a trois rouges, je prends rouges, paf, je récupère mon jeton action, j'ai déjà, en un tour, j'ai déjà un chakra qui est harmonisé. Enfin voilà, donc j'ai relu les règles à la deuxième partie que j'ai fait. Je fais, ouais, j'ai rejoué avec les mêmes joueurs, en plus, je me suis trompé la dernière fois, en fait, on n'a pas le droit de le faire. Donc, ça change.
Oh, quel dommage.
Et du coup, la partie, je fais, ah ouais, bah c'est écrit une demi-heure sur la boîte, ça dure vraiment une demi-heure. Non, en fait, finalement, quand tu joues avec les bonnes règles, ça peut être un petit peu plus long parce que c'est moins immédiat. Le côté, je prends, il y a trois gemmes qui popent de la même couleur, je prends tout, je les place, c'est fait.
Non, mais du coup, t'aurais pu jouer en un quart d'heure au lieu d'une demi-heure, quoi. Mais effectivement, c'est un peu plus long qu'une demi-heure pour toi.
C'est toujours délicat de mettre juste, tu vois, sachant qu'en fonction de 2 ou 4 joueurs.
Ils disent 40. Je suis remonté sur la fiche, là, 45 minutes, ils disent. Ouais, c'est toi qui as mis 45 minutes.
C'est moi qui ai mis 45 minutes. En fait, je crois que c'est sur Philibert, ils mettent entre 30 minutes et 1 heure. Et sur la boîte, il me semble qu'il y a écrit 30 minutes. Sur la boîte de jeu. Et c'est pour ça que.
Ils peuvent pas s'entendre, les gens, quoi. C'est le bordel.
Non, mais je pense qu'il faut compter entre 10 et 15 minutes par joueur. C'est ça qu'il faut dire, parce que effectivement, quand tu joues à 4, ça prend un peu plus de temps parce que chacun va faire son action, chacun son tour. Mais les actions s'enchaînent vite. Faut savoir que comme c'est des petites actions qui sont vite faites, t'attends pas, même à 4, t'attends pas 3 quarts d'heure pour ton tour, quoi. C'est plutôt très dynamique. Pour le comparer avec des jeux de la même... Ouais, vas-y, excuse-moi.
Je disais effectivement, j'ai regardé aussi 10-30 minutes sur la boîte. Ouais.
Oui, c'est ça.
Et t'as triché sur le nom de l'auteur, hein, parce que c'est pas un I après le R, c'est un L. C'est vachement moins facile à prononcer.
C'est pas un I... Ah, c'est un L. Ouais, je l'avais... Kredza. Non, je l'avais plutôt bien prononcé, je crois. pour comparer ce jeu avec des jeux un peu de la même famille, moi, je le mettrais... globalement dans la famille des jeux type Splendor, Century, Azul, qui sont des jeux relativement accessibles avec des règles assez simples, il n'y a pas trop d'actions possibles et c'est assez rapide, il y a quand même une profondeur stratégique, c'est plutôt de l'optimisation.
Optimisation et jeu à moteur, quoi.
C'est ça. Alors il y a moins de moteur que dans dans Century par exemple.
Je pense aussi. Peut-être plus à la Azul du coup.
Ouais, Splendor et Azul.
Parce que pour le coup, Azul, il y a pas vraiment un moteur. C'est un moteur de points, mais pas un moteur de développement.
Il y a moins ce côté. Il y a vraiment pas ce côté monté en puissance. Si ce n'est le fait que quand tu as harmonisé, tu te déplaces plus vite sur tes chakras. Ouais. Voilà, mais c'est un peu la seule montée en puissance. Mais autrement, voilà, c'est un petit jeu de cette catégorie là. Qui peut avoir les défauts aussi de cette catégorie. C'est-à-dire que il n'y a pas énormément d'interaction entre les joueurs. L'interaction...
Ça s'est senti, ça.
Ouais.
À la description. Ouais.
L'interaction se fait essentiellement au niveau de la prise des énergies. Puisque comme les énergies pop aléatoirement, quand tu veux absolument une couleur d'énergie et qu'elle n'est pas dans la rivière et que au moment où elle apparaît, il y a un joueur avant toi qui la prend, forcément, voilà, ça joue là-dessus.
Parce que du coup, les énergies, elles reviennent. Enfin, genre, tu en prends, elles
reviennent immédiatement.
Tout de suite.
Tu recomplètes tout de suite, tu repioches tout de suite. Mais du coup, voilà, il y a des couleurs qui peuvent. Alors, il faut savoir qu'il y a une gemme. Enfin, il y a trois gemmes de chaque couleur par joueur. Et ça, ce nombre, il est pile dans le sac. C'est-à-dire que.
Ah ouais.
Tu peux remplir tous tes. Chacun peut remplir tous ses chakras. Tu vois, il n'y a pas de couleurs qui sont plus présentes que d'autres ou quoi. Pas dans le même ordre. Et surtout, t'as pas le droit de faire de la rétention. Si t'as déjà trois gemmes d'une couleur, tu peux pas dire j'en prends une quatrième pour faire chier les autres. Ça, t'as pas le droit.
Ah, c'est presque dommage.
Non, parce que justement, ils ont fait une règle là-dessus. C'est-à-dire que si tu le fais sans faire exprès, ou si tu le fais en le faisant exprès, c'est pas vraiment interdit de le faire, en fait. Par contre, si quelqu'un, si un autre joueur le remarque, il peut te le dire et t'enlever une pierre de cette couleur. T'as pas le droit d'en avoir quatre, je t'en enlève une, et par contre, il peut enlever n'importe laquelle. Y compris une qui peut être déjà harmonisée.
Ouais, bien sûr. Hein.
Voilà. Donc là, l'intérêt est de surveiller un peu ce que les gens font. S'il prend une pierre en trop, paf, je lui enlève celle qui est déjà placée et il doit se redémerder pour placer celle qu'il vient de prendre, quoi.
D'accord. Oh, tu peux jouer le jeu façon mytho, quoi. comme tu sais, ouais. le jeu mytho quoi. Tu peux dire les gens font exprès de tricher entre guillemets, tu respectes les règles en fait, mais juste il faut pas te faire prendre quoi.
C'est ça. Après voilà, c'est pas il y a pas une incitation à faire ça dans les règles, ils disent vraiment t'as pas le droit si ça arrive et que quelqu'un voilà, ils disent voilà, si ça arrive et que quelqu'un le il y a pas d'incitation à faire ça en fait, c'est pas
ils te disent quand même que c'est normalement tu dois pas le faire, voilà, c'est en cas d'erreur quoi.
D'accord. Oui, c'est plus en cas d'erreur, c'est plus tourné comme ça. Bah voilà, au fait de l'explication, bah je vous ai dit un peu déjà les points positifs et moi ce que j'aime bien, c'est que c'est assez facilement expliqué. Je pense qu'il y a 10 minutes d'explication de règles à tout casser pour expliquer chaque action, etc. Mais après, on part vite dans la partie.
C'est, ouais, parce que là, je pense que t'as tout expliqué. Effectivement, t'as dû peut-être faire 10 minutes. Et encore là, on n'a pas les éléments sous les yeux, donc c'est pas.
Oui, c'est ça. C'est toujours un peu plus compliqué. C'est assez dynamique, c'est-à-dire que vraiment les tours s'enchaînent assez vite. C'est vraiment pas dénué d'intérêt stratégique, puisque ben, déjà faut optimiser ses coups, faut essayer de trouver les chakras qui sont les plus intéressants, faut observer un peu quand même ce que les autres font par rapport à ce qu'ils ont pu observer eux. Ça, c'est vraiment le côté sympa. C'est, ben, voilà, effectivement, il n'y a pas d'interaction directe. Par contre, si lui, il a vu la couleur bleue foncée et qu'il l'a fait, bah, ça me donne des indices quand même sur la valeur. Parce que, effectivement, tu passes pas 7 fois. Généralement, tu passes pas 7 fois dans une partie, donc tu vas pas pouvoir regarder toutes les couleurs. Généralement, tu regardes 3-4 couleurs max sur les 7. Donc forcément, ouais. faut que tu observes un peu ce que les autres font. Après, forcément, en début de partie, tu vas partir en prenant des gemmes et tu vas commencer à harmoniser certaines couleurs sans savoir combien elles valent. T'as forcément toujours un ou deux chakras où tu vas un petit peu à l'aveugle. Quoi. Mais bon, t'as moyen de te rattraper. Voilà. C'est pas un jeu à interaction. Donc ça, ceux qui aiment l'interaction forte, effectivement, ils seront un peu déçus. Après...
Ouais, c'est peut-être même pas la peine d'y essayer, quoi.
ouais. C'est... Bon. Après c'est rapide, donc s'ils aiment pas, ils peuvent vite passer à autre chose, quoi. Mais c'est un désavantage. Bah, un peu comme Azul finalement aussi, qui est plutôt rapide. Ouais. Alors le petit bémol, pour l'instant,
sauf que dans Azul, je pense que t'as beaucoup plus d'interactions en réalité, parce que tu peux vraiment faire chier sur les pierres. Alors, peut-être pas sur les premières prises, mais
Oui, après tu peux.
Ouais. Quand même.
Ben là, tu peux faire chier un peu aussi, mais comme tu as ce côté très aléatoire de ce qui va sortir à ton tour, si quelqu'un a pris des énergies avant,
tout de
voilà.
suite, ça freine un peu. Ouais.
Et puis, comme il y a trois rivières différentes et que tu n'en prends que sur une, finalement, bah. Bon, après, tu vois, tu as des rivières comme ça, quand tu as deux énergies noires et un truc que personne veut, bah, ça va restreindre en fait les rivières sur lesquelles il y a du choix intéressant, parce qu'il y en a une qui va complètement être. Délaissé par les joueurs.
Ça va boucher les possibilités, quoi.
Ouais, mais bon, finalement, ça fait partie du jeu et c'est pas gênant. C'est justement, il y a un peu plus d'enjeux sur les autres où finalement, ça va forcer quelqu'un à le prendre pour nettoyer un peu ça. Tu peux vraiment jouer en essayant de prendre aucune énergie noire, mais généralement, c'est assez dur parce que je sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal et t'en as toujours une qui traîne. Et s'il y a vraiment une couleur qui t'intéresse parce qu'il te manque juste une gemme rouge par exemple et qu'il y a du rouge et du noir, bah tu vas te prendre la noire quand même, quoi.
Ouais.
Alors le petit bémol, peut-être, pour l'instant j'ai fait 5 ou 6 parties, c'est peut-être la rejouabilité, parce que effectivement les parties quand même peuvent se ressembler pas mal dans leur déroulé. Moi je trouve pas ça très très gênant, enfin je pense que c'est un peu la même chose pour Azul ou pour Splendor. Enfin, effectivement la configuration est différente à chaque fois, mais le déroulé de la partie est toujours un peu similaire. Il n'y a pas d'événements ou de choses qui font que ça va se passer différemment d'une partie à l'autre. C'est vraiment au niveau de la pioche des énergies et puis des valeurs aussi, des chakras qui vont changer à chaque partie. Donc c'est ça qui va faire la rejouabilité.
Bah, Splendor, t'as le côté objectif et le côté, en gros, où sur la première... Enfin, dès le début, en fait, t'as la troisième ligne qui est assez déterminante, en fait.
Ouais.
Parce que pour mettre des points, cette troisième ligne, elle va pas beaucoup bouger.
C'est vrai.
Donc, il faut la viser dès le départ. Plus ses objectifs, plus, bah, du coup, le moteur que tu vas créer, il va différer. Et du coup, tu vas jouer quand même sur des couleurs, d'une partie à l'autre, tu joueras pas sur les mêmes couleurs.
Mais les objectifs sont quand même, enfin, se ressemblent quand même. C'est, y a pas de trucs très différents dans les objectifs.
Oui, c'est sûr.
Sur la boîte de base, j'entends.
À mon avis, t'as quand même, au sentiment, j'ai pas joué à Chakra, mais au sentiment, j'ai quand même l'impression que t'as quand même plus de rejouabilité dans Splendor que dans Chakra. Et au niveau d'Azul, en fait, la rejouabilité, elle se fait plus justement dans le côté interaction avec les autres joueurs. C'est-à-dire que t'as... Alors pour le coup, je suis pas très fan d'Azul, moi, mais bon, voilà. Je pense quand même que t'as... tu vois, t'as des physionomies de parties différentes parce que t'as des comportements de jeu différents en fonction des tirages de pierres, etc.
Ouais.
Et même si, oui, une partie va quand même ressembler à la suivante, tu vas quand même... t'auras, je pense, des peut-être un peu plus de variabilité que dans chaque
dans chakra,
cas
ouais.
de ce que j'en ressens là. Ouais.
Ouais, tout à fait. Bah voilà, c'est peut-être le petit bémol. Alors pour l'instant, sur 5-6 parties, j'ai pas ressenti de lassitude, et c'est suffisamment court et dynamique pour que, enfin voilà, que t'aies pas le temps de t'ennuyer vraiment. Après, je dis pas qu'au bout de 20 parties, j'aurai encore beaucoup envie d'y jouer, mais pour l'instant, voilà, j'ai aucun sentiment de lassitude. C'est peut-être hein, quelque chose à surveiller sur plus de parties. Mais bon, les jeux auxquels tu fais 20 parties aujourd'hui, ça devient quand même assez rare au final. Hein. Pas se le cacher, et donc voilà, ça. Enfin, il fonctionne très bien, et c'était le petit éventuel petit bémol. Ça, je pense que ça va en gêner certains et pas du tout d'autres. Ça dépend vraiment des joueurs, je pense, hein, sur cet aspect-là. D'un point de vue ergonomie, bah, le jeu est plutôt beau. La boîte est pas très grande, c'est plutôt malin parce que les plateaux finalement sont assez grands, les plateaux individuels. Mais du coup, ils les ont coupés en deux. Et,
ils sont pliés, quoi.
Voilà, bah, ils sont pas pliés, c'est deux parties qui s'assemblent un peu à la manière puzzle, un petit peu. Pour que ça rentre dans une boîte qui est d'un format, c'est un format carré qui doit faire 15-20 cm sur 15-20 cm. Enfin, c'est un petit carré, quoi. C'est les petites boîtes carrées. Donc,
ça doit être. C'est pas Doggy Bag qu'ils avaient fait.
Ouais, si, ça doit être à peu près le format de Doggy Bag. Ouais. Mais même de Celestia, hein, je crois que c'est à peu près le même format que Celestia. C'est dans ce genre de boîte aussi.
Oui, t'as raison, ça doit être ça.
Ouais, c'est à peu près le format Celestia pour ceux qui voient. Ça c'est plutôt sympa, les plateaux en deux. Alors il y a toutes les énergies, c'est des petites gemmes en plastique là, des petits diamants plastiques de différentes couleurs.
Ouais,
ça c'est plutôt sympa. Enfin ça donne un aspect plutôt joli au jeu.
Je me demandais d'ailleurs ça doit pas être trop daltonien friendly quoi, parce que
non effectivement, surtout qu'il y a du vert, il y a deux bleus différents, un bleu clair, un bleu foncé, autant sur les plateaux ça se voit, autant sur les gemmes si tu joues avec du soleil ou tout ça, ça peut être un peu difficile. Ouais, de ce côté-là, au niveau c'est pas daltonien friendly à mon avis.
Ouais. Ah, le fait d'utiliser ce matériel-là, forcément, du coup, tu peux pas mettre de petites icônes dessus, donc c'est bon.
Ouais. Ouais. Tout à fait. Après, il y a pas mal de punch, donc tous les jetons, les jetons sur lesquels il y a le nombre de points de victoire, les jetons action, c'est des punch. Et en fait, quand tu regardes aussi une couleur, pour que les autres voient quelle couleur tu as regardé, pour ce côté indice, tu dois prendre un petit jeton de la couleur que tu places à côté du chakra de la même couleur sur ton plateau. Donc pendant la partie, tu peux voir qui a vu quoi en fait. Ça c'est assez intéressant. Par contre, c'est des tout petits punch, ça. Enfin, c'est vraiment des disques qui doivent faire même pas un centimètre de diamètre quoi. Enfin, c'est vraiment tout petit. Et donc finalement, dans la boîte, il y a pas mal de petits éléments. Donc entre les petites gemmes, ces petits machins là.
Une petite boîte, des petites gemmes, des petits jetons, des petits.
Ouais, voilà. Donc les éléments, ils glissent vite. Enfin, c'est plein de petits éléments. Les gemmes en plus, ça a tendance à sautiller un peu partout si tu les lâches, tu vois, de hauteur. Et donc, faut faire attention parce que tu peux vite perdre des choses, je pense. Alors autant les petits punch qui indiquent que t'as pris telle couleur, etc. Il y en a beaucoup et je pense pas que si t'en perds un ou deux, ça gêne. Par contre, les gemmes, quand tu joues à 4, faut toutes les mettre et il y a pile le nombre. Comme t'en mets 3 par joueur, en fait, 3 de chaque couleur par joueur. Donc à 2 et à... Ça, c'est le petit côté un peu chiant. À 2 et à 3, tu dois en enlever, donc tu dois compter que t'aies le bon nombre de gemmes, etc.
Ouais, bon, c'est la mise en place. Ouais,
ouais, c'est pas super chiant, mais voilà. À 4, au moins, tu mets tout. Ouais. À 4, tu mets tout et tu te poses pas la question. Mais du coup, par contre, ouais, si t'en perds, ça peut être un peu chiant,
c'est,
quoi.
Ouais, c'est finalement le lot de tous les jeux, parce que c'est rare qu'il y ait du matériel en plus.
Mais là, comme voilà, c'est beaucoup de petits éléments, voilà, ça a vite fait de glisser ou de. J'ai joué avec des collègues en plein air quand il faisait beau là il y a quelques semaines, table de pique-nique, etc. Et donc là t'as une gemme qui tombe dans l'herbe, voilà, c'est on l'a retrouvée, tu vois, mais on est passé 5 minutes à la chercher, quoi.
Ouais. Bon, le SAV va avoir du boulot.
Ouais. Sur l'adéquation avec le thème, finalement le thème est pas hyper présent, hein. C'est un jeu, enfin comme on le disait tout à l'heure, ça, il pourrait y avoir une toute autre thématique qui serait un peu moins glamour, mais finalement je trouve que l'idée du jeu zen, de l'harmonisation des chakras est plutôt bonne. même si la mécanique effectivement pourrait être plaquée sur d'autres thèmes, bah, l'adéquation est pas mauvaise. On a vraiment cette sensation de cool, le jeu, voilà, ça s'enchaîne bien, c'est, les actions sont pas vues, il y a pas d'interaction violente, c'est plutôt gentil. Et du coup, le thème zen, harmonisation des chakras, le fait de dire que c'est pas un gagnant, que c'est quelqu'un qui a atteint la plénitude, bah je trouve que voilà, ça fonctionne bien, même si c'est pas le
oui, ils ont réussi à créer une atmosphère qui colle avec le thème du jeu quelque part, quoi. Et l'atmosphère plus le style du jeu qui colle avec
c'est
le
ça
thème.
Et là-dessus, ouais, au niveau travail graphique, c'est très très bien réalisé, les images sont plutôt jolies, c'est très blanc, voilà, tout est très clair avec des couleurs, les couleurs des personnages, parce qu'il y a des gros personnages qui sont dessinés sur les plateaux de jeu, c'est assez pastel, enfin ça colle bien avec le thème et l'univers qui est dans le jeu,
qui est cherché. Ok.
Voilà, bah sur les niveaux d'interaction et la sensation de jeu, je pense qu'on a déjà un peu fait le tour, hein, voilà, pas énormément d'interaction si ce n'est la prise des gemmes et encore, enfin des énergies et encore qui peut être soumis un peu à l'aléatoire, parce que s'il y en a un qui prend juste le truc devant toi, tu peux le faire pour faire chier, hein, si tu vois qu'il cherche absolument à récupérer un rouge, que toi t'en as pas déjà trois et que tu veux faire chier le joueur suivant, tu peux, hein, enfin ça c'est faisable. Après, est-ce que ça va te faire gagner? Je suis pas sûr, parce que t'as intérêt à optimiser aussi ce que tu prends et ce que tu fais comme action. Donc,
Oui, puis t'es pas à l'abri qu'en prenant le rouge, tu en pioches un rouge derrière, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc bon, ouais, c'est pas forcément.
Non, c'est pas la bonne action. Stratégiquement, c'est pas malin, je pense. Après, sur les sensations de jeu, ben c'est vraiment de l'optimisation. Faut vraiment réfléchir à quel moment je prends des gemmes, je les place où, je fais quoi comme déplacement. Enfin, c'est un bon casse-tête. Il y a une bonne dose de.
Un peu, ouais, c'est vrai que c'est un côté un peu casse-tête, la façon dont tu l'as présenté, avec le tes actions qui, une fois que tu les as utilisées, reviennent pas tout de suite, donc et que t'es obligé, si c'est trois, enfin un jeton que tu descends de trois, t'es obligé de descendre de trois piles, donc faire que tu descendes de trois, puis peut-être le faire remonter de un, enfin bon, bref,
ouais, c'est ça. Et tu peux, enfin, par rapport à Splendor par exemple, t'es un peu moins dépendant des cartes qui vont être prises et piochées pour obtenir le nombre de couleurs que t'as besoin pour la prochaine carte. Là, t'as un peu plus de contrôle, on va dire, et du coup t'as vraiment, ouais, tu peux plus programmer un peu ce que tu vas faire sur 3-4 tours pour arriver à optimiser tes déplacements et la prise de tes gemmes, pour vraiment optimiser et avoir et harmoniser tes chakras le plus rapidement possible. Il y a un petit côté course aussi, enfin moi j'aime bien le jouer comme ça, en tout cas. J'aime bien vraiment essayer d'harmoniser 5 chakras le plus rapidement possible. Alors je gagne pas à tous les coups.
En tout cas, t'as au moins un jeton de plus quand tu fais ça, quoi. La partie s'arrête tout de suite ou tu finis le tour?
Tu termines le tour. T'as un jeton premier joueur, en fait, qui permet d'identifier le premier joueur, et ce qui fait que tu termines le tour quand quelqu'un arrive à 5, pour que tout le monde joue le même nombre de fois.
D'accord.
Donc voilà, c'est vraiment de l'optimisation sur le même nombre de tours. Mais voilà, la partie course, généralement, ça termine de manière assez serrée, c'est-à-dire que quelqu'un arrive pas à 5 pendant que quelqu'un est à 2, quoi. Tu vois, enfin, ça j'ai jamais vu. Généralement, ça termine à 4, 5, 3 si vraiment la personne qui arrive à 5, elle est très très vite. Tu vois, elle est très très vite sur les premières couleurs, alors que quelqu'un a essayé justement de commencer plutôt par le bas. Mais j'ai jamais vu de différence de plus que un ou deux chakras de différence, quoi. Et donc, le côté course, il peut être intéressant, mais ça veut dire que c'est un peu un pari, parce que. Parce que si tu fais de la course, tu vas pas forcément regarder à avoir les chakras qui valent le plus, et c'est un peu qui tout double, quoi.
Ouais, c'est ce que j'appelle de la pseudo-course, moi. Effectivement, c'est, en gros, le jeu se termine quand un objectif est arrivé, mais on va compter les points.
C'est ça.
Et là, c'est pas forcément celui qui a terminé, mis fin à la partie, qui gagne.
Sur les configurations, nombre de joueurs, etc., variantes. C'est un genre de jeu qui a l'avantage d'être aussi efficace à 2 qu'à 4. Enfin, il n'y a pas de configuration où c'est moins bien, puisque de toute façon c'est de l'optimisation, il n'y a pas trop d'interaction, donc j'ai joué dans les 3 configurations possibles, ça marche tout aussi bien à 2, à 3 qu'à 4.
Alors que tu vois, typiquement Splendor et Azul, c'est des jeux qui prennent une autre dimension à 2, quoi, parce que là il y a
plus de contrôle,
il n'y a pas énormément d'interaction dans dans Splendor et dans Razul non plus,
il y a beaucoup plus de contrôle. Ouais.
Mais du coup, à deux, le peu d'interaction qu'il y a, il est exacerbé, et là, t'as vraiment un contrôle des autres joueurs, de l'autre joueur, j'ai dit les autres, mais à deux, forcément, il n'y en a plus qu'un, qui prend le pas, quoi. Ouais. Du coup, ça donne une autre dimension au joueur.
Tout à fait. Bah là, ça peut être un avantage aussi, c'est que le contrôle est déjà, est relativement présent tout le temps, et il n'y a pas de, grosse différence de la manière de jouer. À 2, à 3 ou à 4, on retrouve à peu près les mêmes sensations. Quoi. Enfin, on retrouve carrément les mêmes sensations.
Okay.
Après, ce que je disais, c'est que finalement, y a la limite du nombre de joueurs, elle est là juste pour, je pense, pour une question de matos, parce que sinon, il faudrait mettre plein de gemmes, les plateaux et tout ça, ça coûterait trop cher par rapport au prix, je pense.
Et de temps de jeu.
Et puis
aussi.
La durée de partie qui serait un peu plus longue, mais finalement, il n'y a rien qui empêche de, si tu as deux boîtes, de jouer à 6 en fait. Hein. Tu rajoutes deux plateaux, tu rajoutes les gemmes qu'il faut. Je pense que ça dure un petit peu plus longtemps, t'es au-dessus de l'heure, mais c'est pas, y a rien qui empêche, mécaniquement, y a rien qui l'empêche, quoi.
Tu pourrais presque même faire un système de duplicate peut-être là-dessus, non?
Ouais.
Je sais pas si
avec les mêmes gemmes, etc. Et tu fais les actions.
Ouais, le problème c'est que du coup il faudrait affecter, enfin faudrait vraiment dire c'est telle gemme que tu prends, quoi.
Ouais.
Et après tu.
Tu pioches, 6 gemmes. Deux fois 3 gemmes, et dans les 3 gemmes, chaque joueur prend ce qu'il veut, et après tu repioches, tu fais une nouvelle pioche. Enfin, je sais pas, faudrait. Il y a quelque chose à creuser sur une petite variante maison. Ouais. On a fait le tour. Mon avis final, c'est un jeu que j'apprécie, auquel j'ai pas mal joué, parce que finalement, il s'explique vite, ça sort facilement à l'association, même pour des joueurs qui sont pas des gros joueurs. Et il a quand même une profondeur, une petite notion de stratégie et d'optimisation que moi j'aime bien. J'aime bien les jeux d'optimisation, enfin je l'avais déjà dit avec Solinia. Il est moins opportuniste que Solinia, je pense. Voilà, il y a moins d'opportunisme, c'est vraiment plus de l'optimisation. Moi j'aime bien ça. Comme je le disais, le petit bémol c'est peut-être la rejouabilité, donc c'est peut-être pas un jeu auquel je vais jouer tout le temps, longtemps, etc. Par contre, je pense que si je le laisse un peu de côté, je le ressortirai avec plaisir peu de temps après, enfin en laissant un peu de temps. J'ai joué à l'assaut, j'ai joué avec les collègues, ça s'explique bien, ça joue bien, les gens apprécient. Enfin, c'est vraiment le genre de jeu agréable qui est facile à sortir.
Ok, ouais. Bon, moi je t'avoue, je suis pas super emballé. Isobretic me l'avait déjà expliqué. Je sais pas. Bon, je refuserai sûrement pas de partie du coup, parce que compte tenu de ce que t'as dit, il y a sûrement d'intérêt tout ça. Donc je l'essaierai à l'occasion, mais c'est pas le genre de jeu sur lequel je vais me jeter.
Ouais, après
j'ai pas l'impression.
Clairement,
tu vois,
ça révolutionne rien et voilà, c'est pas un gros vent de fraîcheur sur le jeu
à moteur, jeu d'optimisation. Ouais.
Mais c'est efficace. Y a un joli emballage. C'est plutôt rapide. Enfin, franchement, à deux, quand tu connais le jeu, tu passes vraiment. Une demi-heure, voire un peu moins, quoi, tu vois. Enfin, je pense qu'en 20-25 minutes, t'as plié le truc. Si tu veux faire un petit jeu le soir, tu vois, en rentrant du boulot avec ta femme ou avec tes enfants,
ça
rentre dans le cadre. Et moi, c'est le genre de jeu que je cherche aussi un peu pour l'assaut. Typiquement, c'est ce genre de jeu-là qu'on cible un petit peu, nous. Jeu qui peut être relativement familial, facilement expliqué, qui dure pas 3 heures. Et il remplit bien ce contrat là et il change un petit peu des jeux du même genre qu'on peut avoir, quoi. Ça amène un petit truc un peu différent, quoi.
Après, je pense qu'il est clairement dans la vague de ce qui est un peu à la mode en ce moment comme genre de jeu, hein.
Oui, tout à fait, ouais.
ça doit sûrement pas trop mal marcher, et puis comme tu dis, il y a un bel emballage, donc
Moi j'ai pu l'essayer à Cannes et ça m'a suffisamment convaincu pour que je l'achète, et je suis pas déçu de mon achat, quoi.
Bon, ok, c'est cool.
Voilà, je refais la petite fiche analytique.
Yep.
Donc c'était Chakra, qui est un jeu de Luca Crezza, édité par Blam, illustré par Claire Conan, pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 45 minutes environ. À 19,90€ chez Philibert, pour l'instant en rupture.
Quand il sera revenu.
Puis un prix correct, petit jeu moyen, enfin prix moyen, donc ça peut valoir le coup. Et bien voilà pour moi.
Moi je pense que c'est, à mon avis, ça devait être Claire Conan, non? Je pense quand même.
Conan ou Conan. J'ai prononcé à la.
à la Conan le barbare.
À la Conan le barbare, ça s'écrit pareil, mais peut-être Claire Conan. Je m'excuse auprès d'elle si j'ai mal prononcé.
Si elle nous écoute.
Si elle nous écoute.
Elle pourra nous dire dans les commentaires si c'était connant ou connant.
Tout à fait.
Ah, merci.
Bon, je te laisse passer à Res Arcana, du coup.
Ouais.
Allons-y.
Res Arcana, c'est un jeu de Tom Lehman. Tom Lehman,
l'auteur
de Rise for the Galaxy, un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Donc attention, la vigilance, ça rigole pas. Illustré par Julien Delval, qui est un illustrateur qui a pas mal œuvré chez Days of Wonder, surtout par le passé. Qui est édité, donc jeu édité par Sandcastle Games, et là c'est leur premier jeu en fait, hein, donc voilà, c'est éditeur inconnu jusque-là.
Mais c'est distribué par Asmodée quand même.
Ouais, c'est distribué par Asmodée en France. Ouais.
C'est grâce à l'auteur sûrement, du coup.
Oui, il y a des chances, c'est probable, ouais. Ouais, c'est sûr que ça joue, en tout cas, ça doit donner une carte, un ticket d'entrée qui est pas trop mal, quoi. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, annoncé pour 30 à 60 minutes, à partir de 12 ans, et le jeu est à 31,50€ chez Philibert, et lui aussi est rupture de stock.
La fameuse malédiction.
Là, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, je sais pas si on peut, il me semble que j'ai regardé il y a quelques temps, il me semble que quand j'ai préparé la chronique, il me semble qu'il l'était pas.
Ah.
Bon, je me trompe peut-être. Mais... Alors de quoi il en retourne dans Res Arcana? Donc dans Res Arcana, on va incarner des mages qui vont tenter de décupler leur pouvoir en acquérant des artefacts, en prenant possession de lieux de puissance et de monuments. Ah, tout de suite, ça envoie du lourd, hein. Comparé à Chakra, il y a une petite volonté légèrement belliqueuse, quoi. Mais,
Bon, après, on tombe dans les poncifs de l'Heroic Fantasy, quand même.
Voilà, ouais, je vais y revenir, mais effectivement, on sent quand même que là, niveau originalité, il va falloir piocher un peu, quoi, parce que on n'y est pas. Donc le but du jeu, voilà, ça va être de gagner. Il y a pas trop de. Et là, tu vas voir qu'on est quand même aux antipodes de Chakra. Je vais y revenir sur d'autres aspects, mais voilà. En revanche, ce qui est commun, c'est que on a un système aussi où la partie va prendre fin à partir du moment où un joueur va atteindre 10 points. Donc ça va mettre fin à la partie, mais on va compter les points. Et celui qui aura atteint 10 points et qui va déclencher la fin de partie sera pas forcément le vainqueur. Bon,
ouais, quelqu'un pourra dépasser
des points. Raisons de voilà, c'est ça. Les jeux, je vais expliquer, mais globalement un joueur peut passer et donc passer avoir les 10 points, mais les autres joueurs vont continuer à jouer et peuvent le dépasser, quoi.
D'accord. Bref.
Donc voilà, ça c'est le principe de la fin. Le principe du jeu, ça va être de manipuler des essences qui sont en fait les ressources du jeu, hein, au nombre de 5. Elles ont des petits noms pour faire joli, mais moi j'appelle ça feu, eau, je sais plus ce que c'est, vie et mort. Le feu, okay. En fait, c'est vigueur, il y a des trucs comme ça. Bon, c'est des trucs pas très faciles à se rappeler. Bon, il y a rouge, vert, bleu, noir et or.
D'accord, quoi. Ils ont mis des noms un peu tarabiscotés.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Pour faire un peu Heroic Fantasy, tu vois. En fait, on est des sortes d'alchimistes.
Mm.
Et donc, tout le jeu va être de transformer ces essences en d'autres essences pour en faire plus. Et donc, on est devant un jeu de combo et d'optimisation. Donc là aussi, on a de l'optimisation. Mais là, on est plus dans le côté combo, où il va falloir enchaîner des actions d'une certaine façon pour transformer des ressources. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi. J'ai une action qui me permet de prendre un rouge, d'en faire deux bleus. Tu vois, à chaque fois, en fait, les actions, elles vont démultiplier tes essences.
D'accord, ouais.
Et il va falloir les enchaîner de la bonne façon pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, quoi. Pour entrer un peu plus précisément dans l'explication du jeu, donc le jeu va être découpé en plusieurs manches. Et donc c'est à la fin d'une de ces manches-là qu'on va, enfin à la fin de chacune des manches, on va regarder si un joueur atteint les 10 points. Et donc c'est là que la fin de partie peut
survenir. D'accord, on va au bout de la manche complète à chaque fois.
Et c'est ça, exactement.
Ok.
Enfin, sauf exception. Mais, on est dans un jeu à combo, donc il y a toujours des exceptions. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail de ces exceptions,
oui.
Mais dites-vous qu'à chaque fois il y a des exceptions.
Les règles sont moins simples à expliquer que chaque.
Donc chaque manche va être découpée en tours de jeu, où les joueurs vont jouer chacun leur tour. Une action et une seule parmi une liste d'actions possibles qui sont jouer une carte, puisqu'on a des cartes, qui sont des cartes artefacts, activer un effet de jeu, Donc en gros, on a des cartes devant soi, alors on a des cartes, on a des tuiles, on a des lieux de pouvoir, comme j'expliquais, des monuments, tout ce genre de choses. On a tout un ensemble de choses comme ça devant soi. Un mage aussi qui a des effets, enfin, bref, voilà, on peut activer des effets de jeu. On peut aussi acquérir des monuments ou des lieux de puissance en payant le coût. Et on peut également défausser une carte qu'on a en main pour gagner deux essences. C'est une façon
de se débloquer, c'est une façon de bloquer.
Voilà, ouais. Et en fait, c'est même un peu plus qu'une façon de se débloquer. C'est même vraiment c'est vraiment, il faut jouer avec ça, quoi. Il y a des cartes qu'il faut pas poser et défausser pour prendre deux essences. C'est vraiment un aspect assez important du jeu. La partie qu'on a faite à Cannes, le mec, il est venu à la fin, il dit, mais vous avez posé toutes vos cartes? Bah ouais. Ah mais faut pas jouer comme ça.
Comme je veux.
Et du coup là pas. Ouais, c'est ça. Mais bon, du coup on avait pas trop optimisé quoi, si tu veux. Il nous dit non mais faut défausser vos cartes, ça vous fait aller plus vite. Et nous on a joué en 1h30 du coup à 4. Enfin et encore 1h30 je pense que je suis gentil. Effectivement les parties que j'ai faites ensuite, tu vois que en jouant autrement tu vas plus vite quand même.
D'accord.
Donc voilà, donc ça c'est la façon dont ça se joue, et ce qu'il faut retenir c'est qu'en gros les actions permettent de transformer des ressources. Voilà, tu transformes des ressources et avec ces ressources là tu vas acheter les lieux de puissance, tu vas pouvoir poser tes cartes, tu vas pouvoir activer des effets, etc. etc. Et on est dans un jeu aussi où il faut se construire une sorte de moteur aussi. En général, tu vas pas jouer sur toutes les ressources. Bon, il y a des stratégies qui peuvent permettre de faire comme ça, mais souvent, tu vas t'orienter sur quelques ressources sur lesquelles tu vas boucler et essayer d'en produire beaucoup pour faire ce que t'as besoin de faire. Donc, on est dans un jeu qui va ressembler assez fort à Century. Il y a le côté moteur, ouais. Et il y a le côté transformation de ressources de Century. Voilà, pour parler d'un jeu qui est assez proche de nous.
Oui, effectivement, quand tu l'expliquais, ça qu'à ce côté transformation des essences en essences plus, enfin quelque part plus puissantes.
Alors c'est pas comme dans Century où t'as clairement une échelle. Là non, les essences ont toutes le même poids si tu veux, sauf l'or qui globalement l'or ça vaut deux essences okay. autres. Mais là, c'est vraiment en fonction de la stratégie que tu vas adopter. En gros, en fonction des lieux de puissance qui sont en présence, ils vont avoir un coût assez important. Donc, typiquement, je sais pas si je prends n'importe lequel. Il y en a un, c'est les catacombes de la mort. Il faut 9 noirs pour l'acheter. Bon, d'accord. C'est un peu particulier. En général, il faut d'autres types de ressources. Mais du coup, c'est un truc qui joue beaucoup sur le noir. Donc, pour en avoir 9, déjà, il faut quand même y aller un peu.
Il faut transformer beaucoup d'autres essences en noir, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Mais t'as d'autres trucs où c'est 5 bleus, 2 rouges, 2 verts, tu vois, bon voilà. Globalement c'est souvent lieu de puissance, c'est souvent 9 et plus ressources qu'il faut pour les acheter, mais tu vois, elles ont un poids qui est équivalent. Alors dans Century, effectivement, il y a une échelle de valeur qui est clairement établie dans le jeu, quoi.
Et du coup, les cartes te permettent de transformer des essences et d'en récupérer aussi, j'imagine.
Ouais, t'as un système en fait. Oui, j'ai pas expliqué ça, mais au début de la manche, t'as une phase de collecte. Donc t'as des cartes qui D'accord. te permettent de récupérer des ressources tout de suite dans cette phase-là. Mais c'est pas forcément là que tu vas récupérer finalement le plus de ressources.
C'est plus en les transformant, en démultipliant, tout ça.
Ouais, voilà, t'as des systèmes où, en gros, t'as des systèmes de temporisation aussi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des cartes, tu vas mettre une ressource dessus, puis elles vont t'en produire 3 ou 4, mais tu vas les poser sur la carte. Et du coup, poser sur la carte, ça veut dire que tu ne pourras les récupérer qu'au début de la manche suivante. La manche suivante, ça veut dire qu'il y a quand même un paquet de tours qui ont été faits entre-temps.
Qui vont passer, ouais.
Voilà. Ce genre de choses. Il y a beaucoup beaucoup de subtilités, après il y a plein d'effets différents dans le jeu. L'iconographie est quand même plutôt bien faite, hein. Mais voilà, donc ça là-dessus c'est plutôt bien foutu, mais voilà, après je peux pas rentrer dans tous les détails, tous les effets, quoi. Pour finir sur les jeux auxquels je peux rapprocher Res Arcana, donc ce côté transformation on va le trouver aussi, il me semble, dans Chafosa, qui est un jeu de Helvetia, qui est un jeu de Christophe Borja. On le retrouvait, il me semble, aussi, mais ça tu vas pouvoir me le confirmer, parce que moi je n'y ai pas joué. Artificium, je crois que toi tu y as joué, non?
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Dans Artificium, ce qui était malin dans Artificium, en fait, c'est que les ressources, toutes les ressources, c'était les mêmes cubes. Il y avait pas de couleurs ou de trucs comme ça. Et t'avais un plateau, en fait, avec des liaisons,
d'accord.
Et les ressources, tu pouvais les transformer. Donc tu les déplaçais sur ton plateau et tu les montais. Mais là, il y avait clairement une notion d'échelle, un peu comme dans Century, hein, dans
d'accord.
Artificium.
Okay.
Tu avais une ressource de base que tu transformais dans une ressource parmi deux au choix à l'échelon supérieur, puis etc., etc. Et à la fin, il te fallait des ressources de plusieurs types du niveau 3 pour faire un mage ou un chevalier, je crois. Enfin, le but c'était de faire des mages et des chevaliers.
D'accord,
mais okay. Oui, il y a ce côté-là aussi d'amélioration des ressources dans Artificium, tout à fait.
C'est vrai qu'il était un jeu à la base russe, hein, de Timofey Chargorovski.
Ouais, sûrement.
Voilà. C'est tout, j'ai pas dit, c'était Emerson Matsushi chez
Plan B.
Plan B, j'allais dire Next Move, mais c'était encore Plan B. Et aussi Bazar, alors ça c'est le Pionfeuzer qui me l'a cité, qui me dit que c'est un peu l'ancêtre de Century, qui est un jeu de Sid Sackson qui date des années 60 pour le coup, et qui effectivement t'as aussi un système comme ça de alors je crois que c'est plus ouvert que Res Arcana, c'est un peu comme Artificium où en gros t'as une échelle de transformation qui est la même pour tout le monde, quoi. Et Chafosa aussi, je crois que c'est un système comme ça où des ressources coûtent plus que d'autres. Moi j'y ai pas joué non plus, mais ouais. Donc voilà, on est vraiment, ça c'est un élément assez important dans le jeu, hein, le côté transformation de ressources. Hein. Les gens qui aiment bien bouibouiter des trucs, transformer, hein, ça c'est y a un petit côté, j'allais dire cuisine, mais c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, en gros, tu vas chercher dans le jeu à créer des chemins qui vont te permettre de produire beaucoup, ou en tout cas de produire les choses qui t'intéressent.
D'accord.
Et puis évidemment, on va pas manquer le comparatif avec Rise Force of the Galaxy, qui est quand même le jeu phare de Tom Lehman.
De Tom Lehman, ouais, tout à
ouais.
fait.
Alors, si on retrouve pas le côté de tableau building au sens où j'ai mis ça en préparation, mais en fait, j'ai en train de me rendre compte qu'en fait, c'est complètement faux. Il y a complètement un tableau building, quoi, parce que tu poses des cartes qui ont des effets, et en fait, c'est complètement ça, quoi. Sauf que voilà, t'es pas limité en nombre de cartes, etc., comme tu peux l'être dans Rise of the Galaxy ou dans Puerto Rico, où t'as vraiment un truc un peu cadré. Là, t'es un peu plus libre, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer ton tableau, enfin, tu vas pouvoir créer tes effets avec 2-3 cartes uniquement. Dans Res Arcana, chose que tu ferais absolument pas n'importe où dans Rise of the Galaxy, quoi. Parce que t'as vraiment le besoin d'aller poser des choses, quoi, pour mettre des points. Alors que là, c'est aussi une particularité de Res Arcana, c'est que, comme le disait justement le démonstrateur à Cannes, pourquoi vous avez posé toutes vos cartes, tu vois, c'est, il faut vraiment chercher parmi les cartes que t'as dans ta main. Là, j'ai pas détaillé non plus, mais je vais y revenir. Ce qui est optimal pour créer une stratégie qui peut te faire gagner. Et du coup, t'as 8 cartes en main. Enfin, t'as 8 cartes en main. T'as 8 cartes dans ton jeu, en fait, qui, selon les règles de base, te sont données aléatoirement au début. Donc, t'as un deck de, je sais plus combien de cartes dans le jeu. Il doit y en avoir une quarantaine, je crois. Je vérifierai rapidement. On t'en donne 8 au hasard et tu vas faire ton jeu avec. Enfin, tu vas faire ton jeu avec. C'est ton jeu. Ouais, tu choisis pas, c'est ton jeu. Tu vas les mélanger, tu vas en tirer 3 et tu vas démarrer avec ça. Et à chaque manche, tu ne vas tirer de base qu'une seule carte.
D'accord.
Tu vois, t'es hyper limité, quoi. Et en gros, si t'arrives pas à faire un truc potable avec les cartes de tes 2-3 premiers tours, ça commence déjà à être chaud, quoi.
Voilà. Mais du coup, si tu les distribues aléatoirement, faut un petit côté aussi chance de que les cartes que tu reçois se combattent bien, quoi.
Ouais, se combattent. Au final, tu arrives à trouver des voies. Tu vois, t'as des cartes qui clairement sont plus puissantes que d'autres, mais elles vont avoir un coup de pause aussi important. Tu vois, t'arrives à trouver. Moi, je joue essentiellement comme ça. Je joue essentiellement. Voilà, je prends 8 cartes, je joue avec. Et au final, tu te rends compte que tu arrives toujours à faire quelque chose.
D'accord.
Des fois, effectivement, tu perds parce que tu n'avais pas le truc optimal. Et des fois aussi, tu fais des mauvais choix. Hier, j'ai fait une partie test, pour le coup, Philippe. Une partie test où, en fait, il y a eu un tweet d'Antoine Boza qui disait « Mais les dragons, ça gagne dans Res Arcana. » Parce qu'il y a des dragons. Et moi j'avais déjà fait des parties effectivement en gagnant avec le dragon, et là j'ai voulu faire une partie exprès où j'avais un dragon dans ma main, et je dis bah tiens, je vais essayer de l'opposer au premier tour et voir si j'arrive à en faire un truc, quoi. Bon, en l'occurrence ça n'a pas marché, voilà. Mais j'aurais fait une autre stratégie, je pense que ouais, tu vois, après j'ai analysé, je fais bon, je m'étais entêté, je voulais faire ça, mais sincèrement en vrai j'aurais optimisé, j'aurais posé cette carte là machin, j'aurais défaussé le dragon, hein, et puis bon, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus performant, quoi. Et
du coup les dragons ça gagne pas, quoi.
Ça gagne, mais dans des circonstances particulières. Voilà. Bref, donc pour revenir à Crisis Force Galaxy, oui, il y a la similitude de ce côté tableau building, mais avec des sensations différentes quand même. Et t'as toujours le côté gestion de main, mais dans Crisis Force Galaxy, tu vas piocher beaucoup de cartes. Là, on était plus proche, ouais. Avec Wingspan, ou même si tu piochais un peu moins de cartes dans Wingspan, voilà, t'avais ce côté de gestion de main qui était un peu plus. On est plus proche avec Wingspan qu'avec Res Arcana. Mais tu as retrouvé aussi le côté pseudo-course, là, qui, dans Res Force Galaxy, c'est t'as 12 cartes, ça met fin à la partie, mais voilà, on va compter les points. Là, c'est t'as 10 points, mais c'est peut-être pas toi qui as le plus de points.
Donc, parce que là, par rapport à ce que tu me disais, tu pioches pas beaucoup, en fait. Enfin, t'as les 8 cartes et tu en pioches une à chaque manche. T'as
ouais, c'est ça.
Moteur de pioche ou pas du tout, du coup?
T'as des effets qui te permettent de piocher une carte en plus. D'accord. Ouais. Ouais, okay. Mais il y en a pas,
voilà,
beaucoup.
C'est pas du tout le cœur du jeu, quoi.
Non, tu vas pas t'amuser à piocher. Enfin, t'as des effets aussi qui te permettent de genre prendre trois cartes et choisir celle que tu vas remettre par dessus. Tu vois, t'as des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Ou prendre trois cartes, les mettre dans ta main et rejeter trois cartes.
Organiser, ouais.
Ouais, tu vois. Donc t'as des effets comme ça quand même. Mais encore une fois, c'est pas un jeu où tu brasses beaucoup de cartes et puis t'espères avoir la bonne. Non, c'est t'as 8 cartes et tu te démerdes avec, quoi. C'est vraiment le côté démerdonnisish, quoi. C'est
vraiment fait au mieux avec ce que t'as, quoi.
Ouais, c'est un peu MacGyver, quoi. Et c'est aussi ce qui est sympa dans le jeu, c'est que vraiment, tu vois, t'es bridé. Alors t'as le droit de regarder tes 8 cartes au départ et te dire, bah, du coup, ok, bon, faut que je, toi, si t'as envie d'optimiser à mort, ok, bon, faut que j'arrive à aller chercher celle-là et à poser ces trois là et faire quelque chose avec. Et là tu pioches tes trois premières cartes et tu fais merde, il n'y en a aucune des trois que tu voulais. Donc et là bah il faut que tu fasses autre chose, quoi.
T'as pas moyen de recycler ta main, quoi.
Non, tu peux pas recycler ta main. Enfin, si, il y a un truc où tu prends trois cartes et t'en rejettes trois là, mais toi typiquement j'ai encore jamais utilisé ce truc là. Mais
d'accord.
peut-être qu'effectivement c'est ce qu'il faudrait utiliser. Je sais plus si c'est un des objets ou si c'est un effet de carte. Ah si, c'est un des objets que tu peux avoir dès le départ. En fait, bon, là aussi j'ai pas tout détaillé, mais t'as des objets magiques qui sont des tuiles qui vont tourner dans la partie. Au début tu vas en prendre une, c'est 8 tuiles qui sont différentes, qui ont donc 8 effets différents. Chacun va en avoir un au départ, et en gros lorsque tu vas passer, donc quand tu vas dire bon ok moi j'arrête pour la manche, tu vas rendre ton objet magique, tu vas reprendre un autre parmi ceux qui sont disponibles, donc pas ceux que les autres joueurs ont, t'es obligé d'en changer. Bref, et là dedans tu as un effet qui fait ça là. Donc piocher 3 cartes, ajouter les à votre main et défausser 3 cartes. Donc en fait dès le départ tu pourrais,
ouais, tu peux recycler,
pour trouver en fait
ça,
choisir parmi 6 de tes cartes sur les 8, quoi. Voilà. Mais évidemment si tu fais ça, bah tu fais pas autre chose, quoi.
Et oui, c'est le dilemme.
Voilà, dilemme. Et donc voilà pour les comparatifs. C'est aussi un jeu qui utilise pas mal les codes de Magic. Donc ça va parler aux joueurs de Magic, ouais. Clairement. Parce que t'as des effets d'engagement, dégagement. Alors il n'y a pas de combat, hein, comme dans Magic. Mais tu vois, puis le côté mage, tout ça, bon, on sent qu'il y a un... Et le côté draft, donc ça c'est ce que j'ai pas expliqué, c'est la variante qui est proposée aussi dans le jeu, qui est de dire, ben on donne 8 cartes à chacun et on les draft.
D'accord, c'est donc un peu plus de contrôle sur la main que tu te fais, quoi.
Exactement, ouais.
Et tu sais ce que les autres vont avoir aussi
Bah au moins en partie, oui, pour un draft, quoi. Donc ça c'est une possibilité qui est clairement énoncée dans les règles. Donc avec le draft, t'as la possibilité toi, de te faire une main avec un objectif assez précis. Bah typiquement je me rappelle avoir fait une partie où tu vois où j'étais tourné autour des dragons et là je suis allé chercher des éléments qui te permettent de les poser facilement. Je crois que j'en avais récupéré deux, tu vois, dans le truc, dans le draft, ce qui est pas forcément évident comme ça, quoi, si tu as 8 cartes au hasard.
Oui, c'est sûr. T'as plus de contrôle sur ta stratégie en amont.
Mais à l'inverse, le côté aléatoire, tu vois, il y a un côté plaisir de découverte, des synergies. Ça va te forcer à aller chercher des synergies là où peut-être t'aurais pas
spontané. Pas naturellement allé. Ouais.
Voilà, exactement. Ouais. Tu te serais peut-être pas dit, tiens, en mettant cette carte là et cette carte là, avec la troisième là, ça va me faire un truc du tonnerre quand tu fais le draft. Alors que quand t'es contraint, bah t'as posé tes cartes, tu dis ah, bah, attends, je vais peut-être pouvoir quand même exploiter ce machin là, et tu te rends compte que oui, c'est possible, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un côté, il y a vraiment un côté sympa, tu vois, de la découverte finalement à chaque partie, tant que t'es sur des mains différentes. Et bon, avec 8 cartes sur 40 cartes, même quand tu joues à 4, il en reste encore quelques-unes dans le baquet, et puis après bah, c'est une question de combinaison, quoi. Donc bon,
il y a beaucoup de variétés.
Les autres trucs que j'ai trouvé, malins, donc que j'ai commencé à aborder, il y a le côté temporisation de production de certaines cartes. Tu vois, qui te met face à des dilemmes, quoi. C'est vraiment
parce que à l'instant T ça te fait rien, mais par contre ça te prépare un tour suivant ou une manche suivante qui va être plus intéressante.
Exactement, à l'instant T ben tu perds même une ressource pour souvent une ressource ou deux pour en produire une autre ou deux autres, mais ouais, tu les toucheras au prochain tour. Et il y a aussi donc dans cet effet de collecte, quand tu prends quand tu ramasses les ressources qui ont été stockées sur une carte, t'es obligé de tout prendre. Tu peux pas en laisser une partie.
D'accord.
Et t'as des effets de cartes qui disent en gros que ils font quelque chose, mais s'il y a des ressources dessus. Tu vois. Du coup, là aussi, il faut que tu choisisses, est-ce que je récupère les ressources parce que j'en ai besoin, ou est-ce que je laisse dessus pour pouvoir faire l'effet. Souvent, ces effets-là, c'est justement de la production. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tant que tu laisses quelque chose dessus, ça continue à produire. Et dès que tu l'enlèves, pouf, tu arrêtes la production. Et ces trucs-là, ils sont encore plus vicieux parce qu'en fait, le tour où tu vas mettre quelque chose dessus, ça va produire au tour d'après, mais du coup, tu peux pas collecter parce que c'est-à-dire qu'il faut l'avoir laissé au moment de la collecte pour que ça produise. Ah, donc, ça temporise carrément deux tours. Je me suis fait avoir, j'allais dire un gros mot, mais je me suis fait avoir hier avec ce truc-là. Je fais, attends, c'est trop puissant ce machin. Puis en fait, mais je vais les toucher dans deux tours en fait. Tu vois, bon, bref. T'as ça, t'as le côté, ce que j'expliquais, en fait, une des actions, c'est de défausser une de tes cartes pour gagner des essences. Et là aussi, souvent, tu te dis, bon, est-ce que je pose la carte? Est-ce que la carte, elle va me permettre de... Globalement, quand tu poses une carte, tu perds des ressources pour poser la carte. Du coup, tu perds du temps, potentiellement. Donc, du coup, il faut que la carte, derrière, elle te refasse gagner plus de temps qu'elle ne t'en a fait perdre. Oui. À l'inverse, si tu la défausses, tu prends deux essences, donc là, ça peut te faire gagner aussi du temps. Bref, c'est là aussi, c'est des dilemmes intéressants. Et chose que je n'ai pas dite encore, qui est aussi une petite subtilité, un point de règle, il y en a plein, c'est le premier joueur. Donc quand tu passes, si tu es le premier à passer, tu prends le jeton premier joueur. Le jeton premier joueur est accompagné d'un point. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui est premier joueur à un instant T a un point. Enfin, celui qui a le jeton premier joueur à un instant T a un point.
Ça compte dans les 10 points.
Ouais, et un point, c'est un point. Sur 10 points, sur 10, ça peut vraiment compter, quoi.
Du coup, ça tourne d'une manche à l'autre, quoi. Enfin,
oui,
potentiellement.
En fonction, oui, c'est ça. En fait, le premier qui passe, en gros, ramasse ce jeton-là.
Donc quand t'es à 9, t'as intérêt à passer vite, quoi. Si les autres sont encore... Quand t'es à 9 points...
Ouais, voilà, mais si tu te fais pas dépasser, tu vois, il y a des trucs intéressants comme ça en fin de partie où effectivement tu regardes, alors... parce que, ouais, tout est visible, en gros. En gros, on est sur un jeu à information ouverte. Hormis les cartes que les gens ont en main, tout est visible. Donc du coup, souvent ce qui se passe à la fin, c'est... Le mec, il a une carte en main. Est-ce que cette carte fait un point? Il y en a pas beaucoup des cartes qui font un point, en fait. Mais il y en a quelques-unes... Et du coup, tu fais, est-ce que cette carte fait un point? Parce que si elle fait un point, est-ce que ce jeu et que je passe, peut-être qu'il va me passer devant, et sinon, peut-être pas, et bref. Tu vois un peu le genre, quoi.
Ouais, donc
les fins de partie peuvent être assez, assez drôles là-dessus. Sinon, une critique quand même. Je pense que là, avec tout ce que j'ai raconté, je pense qu'on aura assez vite compris que le jeu, ça donne un peu une impression de patchwork.
Ouais, c'est riche.
C'est pas que mon explication qui est décousue. Alors, ok, elle l'est, mais ce n'est pas que mon explication. C'est qu'il y a aussi beaucoup de choses assez variées dans le jeu. Et donc, le jeu n'est pas très élégant au sens game design du terme. Je sais pas si c'est si c'est effectivement des éléments qui dans le game design ont été ajoutés au fur et à mesure. Typiquement le coup du premier joueur, on a le sentiment que tu vois, c'est un petit truc à un moment, ils se sont dit ah le coup du premier joueur là, comment on gère le premier joueur, et si on lui mettait un point, tu vois, ça rajouterait quelque chose de sympa. Mais tu vois, du coup, dans les explications, c'est pas non plus le truc.
Ouais, du coup, cet aspect beaucoup de mécaniques qui sont assemblées, la relation avec la thématique est d'autant plus compliquée, quoi.
Ouais.
Enfin, oui, il n'y a pas d'explication thématique à certaines mécaniques.
Oui, c'est ça. Non, pas du tout. on a vraiment le sentiment d'un jeu qui est fait pour les compétiteurs, en fait. Tu vois, vraiment de l'optimisation, de la recherche de la voie qui va te faire gagner, la stratégie qui va marcher, toi c'est on est vraiment là dedans quoi.
Ouais.
J'y reviendrai aussi encore une fois un peu plus tard. En termes de matériel, on a un matos qui est plutôt pas mal, hein, parce que bon, t'as les illustrations. Bon, si on aime, moi je suis pas super fan du style, en plus bon bah le côté médiéval fantastique, voilà quoi. Mais au dire de pas mal de gens, les gens en général aiment les illustrations. Moi je suis pas un méga fan, ça m'est assez indifférent, on va dire. Voilà, je trouve pas ça moche du tout, mais bon ça, voilà. Le matériel, lui, toi t'as des essences, c'est des petites ressources qui ont une forme particulière.
D'accord. Donc chaque essence a une forme.
Sa forme propre. Du coup, ça rajoute quand même un petit cachet au jeu. Tu as.
Oui, pour bon, le coup, là, si t'as différentes couleurs, c'est daltonia friendly. Si
ah oui, là, ouais, là, y a pas de problème. Ouais.
Ah, ça c'est cool.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, t'as un petit insert. Alors, t'as un thermoformage dans la boîte qui est plutôt bien fait parce que tous les éléments rentrent bien dedans et ça se balade pas. Moi qui range mes jeux à la verticale, tu vois, je retrouve tout bien comme il faut dans la boîte à la fin, donc ça c'est plutôt
pas
mal. Ouais. Et tu as une boîte dans laquelle tu ranges les ressources que tu peux mettre au milieu de la table qui sert de stock commun.
De rangement pour la pioche.
Qui est bien pratique et qui a un petit couvercle du coup qui évite que les ressources se baladent dans ta boîte quoi. Et ouais, ça c'est assez chouette. C'est le genre de truc qui va se répandre de plus en plus. On en a vu pas mal sur Kickstarter et tu vois, on commence à en voir dans les jeux édités aussi quoi.
Ouais, bah Century avait fait ça avec les petits bols aussi.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais là tu vois, c'est un truc, en fait, c'est un pentagone. Et du coup, t'as 5 ressources et du coup, elles sont agencées dedans. Enfin, moi, je mettrai une photo sur le billet du matériel, quoi. Mais c'est vraiment chouette. En revanche, ils ont eu un problème de prod sur le premier tirage. Les cartes ont... Alors, les gens n'ont pas tous remarqué ce truc-là, mais bon, comme moi, à la base, je suis un joueur de Magic, je l'ai assez vite vu. Putain, mais au début, j'attrape le paquet, je dis, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'elles sont brillantes, les cartes, enfin, la tranche est brillante.
Ouais.
Et en fait, non, c'est juste que c'est mal coupé. C'est un peu bizarre, mais ouais, je sais pas, il y a une, la découpe est un peu bizarre. C'est comme si c'était, je sais pas comment dire, crénelé sur les côtés, tu vois, comme si ça a mal coupé, quoi. C'est,
En dents de scie un peu ou...
Ouais, légèrement, mais tu sais, faut toucher, quoi, pour sentir. Hein, c'est, voilà, mais effectivement, oui, c'est coupé en dents de scie, quoi. Bon, si tu sleeves, ça va, quoi, tu verras pas. Ouais, mais moi, je ne sleeve pas mes cartes. Enfin, pas sur ce genre de jeu, en tout cas. Et du coup, j'ai un magnifique tapis de jeu pour jouer. Et ben, ça accroche dessus.
Ah merde.
Tu vois, alors, c'est du genre de tapis de jeu pour jouer au jeu de cartes, quoi. Et ben, ça accroche dessus, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui sleevent, eux, je pense que les sleeves rentrent, enfin, que les cartes sleevées rentrent dans le truc, largement.
Dans le thermo.
Ouais, dans le thermo, pardon. Ça a l'air d'avoir été prévu pour. Il y a un petit peu de marge, tu vois, il y a quelques millimètres sur les côtés, et la hauteur de l'insert du thermo est largement suffisante. Il y a la place de mettre 3 fois le paquet, je crois. Autant te dire qu'ils doivent avoir prévu des extensions.
tu sens la place pour les extensions, quoi.
Ouais. Donc voilà, ça c'était le matos. L'adéquation avec le thème, alors, bon, bah. Il y a un thème alchimie et la mécanique c'est de la chimie, donc bon, on va dire qu'ils se sont pas trop loupés sur le truc. Enfin, ça va, c'était pas trop compliqué, on va dire. Et puis ils ont mélangé plusieurs mythes, tu vois, t'as des cartes qui vont évoquer des choses, quoi. T'as la pierre philosophale, t'as des dragons, t'en as, je sais plus combien, t'as des dragons dans le jeu. t'as l'anneau de Midas, par exemple, toi, t'as des, enfin, t'as des trucs comme ça qui te parlent, quoi, qui, voilà. Il manquait, je pense, il devait manquer, genre, Excalibur, t'as des trucs comme ça. Il y a un peu un petit mélange, comme ça, de différents trucs.
Mythologie, ouais.
Ouais. T'as des effets de cartes comme ça qui justement, en général, sont logiques par rapport au nom de la carte. Mais, voilà, ça va pas plus loin que ça au niveau du thème. Hormis donc le côté alchimie avec la transformation, les noms qui sont plutôt bien trouvés et les effets qui vont avec en général, ils sont pas trop mal trouvés. Sinon, tu te sens pas plus que ça dans la peau d'un mage qui est en train d'en affronter un autre. En plus, enfin, c'est même pas que toi, t'affrontes pas les autres. Il y a pas énormément d'interactions dans le jeu. T'affrontes pas les autres. C'est genre, tu vois, c'est moi qui ai la plus grosse.
Ton laboratoire d'alchimiste.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est celui qui aura atteint le plus de pouvoir à la fin de la partie, quoi.
Ouais. Après, voilà, c'est une thématique Heroic Fantasy. C'est, enfin, il y en a qui sont fans, hein, mais c'est un truc un peu passe-partout, quoi.
Ouais, ça fait, voilà, ça donne un peu cette impression, on va dire, quoi. Mais ça va quand même bien avec le style du jeu. Mm. Avec le côté compétition, tu vois. Bon. Sur l'interaction, justement, puisque j'en parlais, t'as quand même pas mal l'impression de jouer dans ton coin. Le peu d'interaction que t'as, c'est le contrôle des lieux et des monuments, où ça peut être intéressant. Si tu pars sur la même stratégie que quelqu'un, t'as 5 lieux de puissance qui sont mis en jeu. Si tu pars sur la même stratégie que quelqu'un, c'est tendu. C'est ça. C'est tendu. T'as intérêt à aller plus vite, quoi. Voilà. Mais tu te rends compte souvent que, bon, en général, si t'as raté ton lieu de puissance, c'est quand même très très mal barré. Hein. Voilà. Il faut être clair. Mais tu te rends compte des fois que t'arrives quand même à faire pas mal de points finalement avec un autre lieu de puissance sur lequel tu te rabats. Donc l'air de rien, tu vois, en recherchant une autre voie, c'est assez bizarre parce que t'as quand même l'impression que les cartes elles sont assez orienté souvent sur une ou deux ressources, et puis finalement t'arrives à exploiter avec d'autres effets à côté, de transformation, de machin, t'arrives quand même à retomber sur tes pattes, quoi. Les autres interactions, donc c'est la vitesse de jeu, tu vois, tu vas regarder un peu à quelle vitesse les autres joueurs vont. Est-ce que t'as des stratégies en fait en gros qui vont faire des points au fur et à mesure. Et t'as des stratégies où tu vas accumuler beaucoup de ressources et tu vas d'un seul coup faire, je sais pas, tu vas faire 7, 6, 7 points d'un coup, quoi, sur un tour.
Ah oui, d'accord. Donc, sur 10, c'est énorme.
Ouais, ouais, non mais vraiment. Et toi, tu finis, boum, t'avais 3-4 points et pouf, tu finis en un tour, quoi. Mm. Et toi, il y a ce côté vraiment de développement qui est assez présent quand même.
Ouais, mise en place avant l'explosion finale. Voilà.
Donc tu vois, il y a ça qu'il faut contrôler un peu pour voir s'il faut que tu prennes des fois une voie ou l'autre. Bon. Et puis il y a le contrôle des objets magiques. Donc j'ai expliqué rapidement, mais quand tu passes, en gros, tu rends ton objet magique et tu dois en prendre un autre. Tu es obligé d'en prendre un autre. Et je sais que par exemple ça se et tu peux pas, du coup, tu peux pas prendre celui que les autres ont puisqu'ils l'ont encore. Et je sais que ça m'est arrivé, tu vois, de contrôler ce machin-là et de dire putain, il me faut l'objet magique d'un tel. Du coup, tu temporises en fait, tu t'arranges pour réussir à faire des actions. Bon, au bout d'un moment, tu peux plus. Hein. Si vraiment tu peux plus quoi. Mais tant que tu peux et que tu serais pas obligé, ben je sais que moi j'ai temporisé parce que je sentais que l'autre il allait bientôt passer. Du coup, j'ai attendu pour pouvoir récupérer son objet, quoi.
Parce que quand il passe, du coup, il remet à disposition,
voilà,
l'objet qu'il
a. Voilà, il met son objet, il est obligé de le remettre à disposition et il en prend un autre. Quoi. Comme moi, j'avais besoin du sien. Voilà. Mais tu vois, c'est très contextuel, quoi, ces interactions. C'est pas l'autre interaction, d'ailleurs, que j'avais même pas mis dans mon conducteur, c'est les dragons, justement. Les dragons, ils ont un effet direct sur les adversaires. C'est tu l'engages, ça fait perdre de base, c'est deux ressources vertes, c'est deux vies, deux ressources vertes à tous les autres joueurs, sauf si ils ont un effet pour ignorer ça. Et il y en a quand même pas mal des effets pour ignorer ça. Donc du coup, c'est pas l'ultime, quoi. Tu vois, c'est il y a une interaction qui est un peu artificielle, je trouve, avec les dragons.
Ouais, et qui est vachement contrôlable, du coup.
Ouais, c'est ça, elle est pas mal contrôlable. Tu sens qu'ils se sont dit, ouais, enfin, bien sûr, enfin je dis ça, j'en sais absolument rien quoi, mais ça donne l'impression que les mecs ils se sont dit bon il faut mettre un point d'interaction, ouais les dragons ce serait bien, on va se foutre sur la gueule avec, et puis ah ouais mais putain quand même
c'est violent, merde,
tu m'as tout cassé, c'est nul, je peux pas faire ma stratégie, ok on va faire des effets pour les contrer quoi. C'était l'impression qu'à un moment il y a le game designer du Milborn qui est venu et qui a dit ouais attends on va faire des effets de contre. Tu fais ouais bon
Anti-crevaison.
C'est ça, bon, j'exagère un peu, je suis un peu méchant sur ce coup-là, mais c'est bon, tu sais. Pff. Et ouais, il y en a quand même pas mal de ces effets-là. Ce qui fait que, typiquement, bah, à deux, qui je trouve est une configuration qui est pas mal pour le jeu, bah, à deux, les dragons, tu vois, c'est rare que l'autre joueur il puisse pas te le contrer. Quoi. Alors ouais. Que si t'es à 3-4 autour de la table, éventuellement il peut y avoir 2-3 dragons qui peuvent apparaître, et là ça devient autre chose. Là c'est une autre histoire en revanche, parce qu'en plus si tu peux pas payer c'est ça, si tu peux pas payer le coût qui t'est demandé, en plus des fois t'as des dragons, ils te disent tu payes 2 vies ou par exemple un feu, t'as déjà une solution de secours en plus qui t'est offerte déjà par le dragon, bref. Mais bon, si jamais tu peux pas les payer par vie que tu ne payes pas, c'est 2 autres essences que tu dois payer. Ça peut être très cher quand même.
Ouais.
Mais il faut que ça passe. Et il faut quand même avouer que bon, pour l'instant j'ai fait 7 ou 8 parties, je sais plus. Et ça passe pas souvent quoi. J'ai eu une partie où c'est passé quoi. Bon, peut-être pas très représentatif, mais voilà. Donc voilà pour les interactions. En gros, on va quand même plutôt jouer pas mal dans son coin. Au niveau de l'ergonomie, bon, il y a pas grand chose à dire parce que l'iconographie est quand même plutôt pas mal faite. Alors bon, c'est sûr, la première fois tu vas
déchiffrer un peu.
Bon, c'est ce qu'on connaît, toi. On est habitué. C'est un peu un système de rébus, quoi. Si tu lis les symboles dans l'ordre, normalement, t'as compris l'effet. Il y a quelques effets un peu plus compliqués à comprendre.
Voilà, je suppose que t'as une aide dans la règle. Enfin, t'as un espèce d'index.
Il y a une description de certains artefacts. Ouais, si, ils sont précisés. C'est ceux qui sont un peu tordus, ouais. Donc maintenant ça va, et puis le matériel est plutôt adapté, ils ont fait exprès de, t'as des trucs de différentes tailles pour représenter les éléments différents du jeu, tu vois, t'as des tuiles, des petites tuiles pour les objets magiques, des grandes tuiles pour les lieux de puissance, après t'as les mages, les monuments et les artefacts, c'est des cartes.
D'accord. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de matos du coup.
Ouais, pour ton argent, toi, ça va, quoi, c'est logique. Après, si je m'amuse à enlever le thermoformage et à mettre à tout tasser dans un coin, je pense que je fais un bon quart de la boîte, je dois faire un tiers de la boîte, quoi. Bon, voilà, on est quand même dans ce dont on a l'habitude, quoi. C'est-à-dire que la boîte, elle est quand même pas remplie à ras-bord, quoi. Bon, c'est pas un Kickstarter non plus, hein. Mais bon, voilà, non, c'est honnête, surtout le prix du jeu par rapport à, je pense, le temps de développement d'un jeu de ce style-là, je pense que ça va, quoi. Pour parler des joueurs à qui ça s'adresse, on est clairement dans un jeu quand même plutôt orienté expert.
Gros joueur.
Ouais, c'est du 10-12 ans ou plus. Je sais que j'ai invité une amie qui est pas une très grosse joueuse. Il y avait Pionfessor le même soir, tu vois. Pionfessor, il voulait essayer Sarcana. Moi, j'ai
fatigué un peu.
Ouais. Bon, bah, effectivement, ça a été compliqué quand même pour notre ami en question. Bon, elle a pas l'habitude de ce genre de jeu, quoi. Voilà. Bon, après, voilà, elle a joué quand même. Hein, elle a compris les effets, tu vois. On est parvenu 12 fois sur le truc. Mais, c'est plutôt, il faut avoir l'habitude de ce côté optimisation, tu vois, où tu dois enchaîner, comboter. C'est vraiment, toi, dans le jeu, vraiment, tu fais deux actions dans un ordre différent, ça peut vraiment tout changer, quoi. C'est quand même assez fin, quoi. Donc, on est vraiment plutôt là-dedans. Et là, ça va faire transition un peu avec la partie suivante sur
les configurations,
des variantes, etc., quoi. C'est que dans les règles du jeu, donc, t'as la variante de draft qui est expliquée, et t'as une variante qui est expliquée, qui est une variante mini-tournoi pour deux joueurs.
Ah oui.
Donc tu sens quand même que le jeu est quand même orienté, quoi.
Très compétitif, quoi.
Ouais, c'est ça. Je vais la décrire un peu cette petite variante. Donc là, on te propose de démarrer donc deux joueurs, hein. Donc chacun 8 cartes tirées aléatoirement. Donc tu démarres avec ça. Tu fais une première partie comme ça. À la fin de cette première partie, tu mets les 16 cartes au milieu de la table et tu définis un premier joueur. Alors, dans les règles, c'est marqué tu définis un premier joueur, donc je sais pas trop comment. Dans la petite vidéo que Philibert a tournée, ils ont fait une interview de Tom Lehman à Cannes, puisqu'il était là. Et là, dans cette vidéo-là, il dit en gros, c'est le perdant qui prend une carte parmi les 16, celle de son choix. L'autre joueur prend deux cartes. Et ensuite, les joueurs prennent alternativement deux cartes dans les 16 de départ. Sauf évidemment le dernier qui n'en prend plus qu'une. Hein. Mais voilà, en gros, tu te reconstitues un jeu comme ça. Voilà.
C'est une sorte de draft, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est un draft, mais simplifié, ouvert, on va dire, quoi. Un draft ouvert.
Ouais.
Mmh, ouais, c'est ça. Et donc là, si jamais le perdant gagne cette manche-là, il y a la belle. Et la belle, tu rejoues exactement tes cartes telles que tu les as draftées, en fait. Tu recommences.
D'accord.
Ouais, c'est un peu bizarre, je trouve. Je me suis dit, ah, ça va être tu échanges. Puis j'ai relu, bah non. Bon, en tout cas, c'est parce que j'ai compris, moi. Ouais, tu rejoues tout pareil. Du coup, tu rejoues tout pareil, mais tu tires pas forcément les mêmes 3 cartes, tu vois, au début.
Oui, oui, tu repars avec les mêmes 8 cartes, mais après.
C'est ça, ouais.
Justement, le déroulé.
Le déroulé sera pas le même.
Différent. Hein.
Et c'est ça qui est. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avec 8 cartes, t'as pas le même déroulé et comme t'en tires pas des masses, bah en fait, même si tu joues avec les mêmes 8 cartes, tu peux faire une partie qui est assez différente, je pense. Mm. Enfin, pour le coup, j'ai pas essayé, mais. Voilà, donc tu vois, ouais, quand même, joueur expert, quoi. Hein, bah, clairement, je pense qu'il y a les joueurs de Chakra et les joueurs de Res Arcana.
Bah moi je suis,
non, toi,
moi,
tu peux jouer
personnellement
deux,
je suis attiré par les deux, hein. c'est des plaisirs différents,
mais voilà, pardon, c'est pas du tout le même style de jeu, quoi. C'est voilà,
ouais, j'ai pas joué moi encore à Res Arcana, mais
oui, il y en aura des boîtes au week-end pour que c'est joué, il y a déjà des gens
voilà,
qui l'ont mis dans la liste.
Alors, moyen d'essayer ça.
Pour ce qui est des comparatifs 2, 3, 4 joueurs, bon ben à 2 joueurs t'as vraiment le jeu qui plus tendu, toi, c'est t'as les interactions qui sont pas très fortes de base, mais là du coup toi il faut vraiment que tu surveilles ton adversaire parce que là tu peux vraiment en fonction de ce sur quoi il part, je sais que toi les lieux de puissance par exemple quand tu joues à 3-4 ou quand tu joues à 2 et que tu vois que l'autre il est pas du tout sur le même lieu de puissance que toi, tu peux tenter de développer encore ton jeu avant d'aller chercher le lieu de puissance. Parce qu'aller chercher le lieu de puissance, je rappelle, toi, c'est genre, il faut 9-10 ressources. Donc, du coup, tu te saignes un peu quand tu vas chercher ton lieu de puissance.
Ouais.
Donc, du coup, tu peux avoir tendance à te dire, ok, je vais aller le chercher plus tard, parce que de toute façon, personne ne le veut. Et puis, je vais développer un peu mon moteur pendant ce temps-là. Et ben, quand t'es à 2 et que tu vois que l'autre, il va chercher le même lieu de puissance que toi, tu te saignes. Tu le fais. tu vas tout de suite. Parce que,
bah oui,
parce que tu sais que
ça te passe au nez après.
Ouais, c'est ça. Et il est possible que ça puisse gréver ta partie, quoi. Et puis du coup, bah, oui, bah forcément à deux, t'as le guessing qui est un peu plus facile, quoi, typiquement là-dessus. Et en revanche, les dragons, comme j'expliquais, bah beaucoup moins d'effets, donc
ouais.
tu regardes un peu ton jeu, quoi. Si t'as des dragons, voilà, peut-être qu'à deux, tu vas plutôt t'en débarrasser, alors qu'à plus,
à
tu
4,
vas peut-être les jouer, tu vois. Bon, bref,
ils ont plus d'intérêt.
Ouais. Ouais, enfin, c'est l'impression que j'en ai pour l'instant, en tout cas.
Ok.
Et à 4, du coup, le jeu devient un peu long, je trouve. C'est assez difficile de rester dans l'heure. Mais 4 joueurs qui connaissent, je pense que ça rentre. Quoi. Je pense que ça rentre. Mais du coup, ça devient un peu plus le bordel, forcément, parce que t'as quand même que 5 lieux de puissance. T'as toujours 5 lieux de puissance, en fait, que tu joues à 2, à 4.
Ah, d'accord.
Ouais.
Ah oui, donc ça va plus se disputer sur les mêmes lieux à 4.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça peut. Tu peux te faire bien latter ta partie, parce que y a un joueur qui part sur ton lieu de puissance de prédilection et puis l'autre qui part sur ton plan B, quoi. Donc.
Ouais.
Bon. Moi, je trouve qu'à 3, c'est un bon compromis par rapport au temps de partie et aux effets des dragons, tu vois, que tu peux activer. Bon. Mais pour l'instant, j'ai quand même pas mal joué à 2. Voilà, je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour. J'ai beaucoup, beaucoup blablaté encore. Au final, j'ai un bon feeling, moi, avec le jeu. Je pense pas qu'il va remplacer Risk of the Galaxy, tu vois, à mes yeux, aujourd'hui. En tout cas, pas aujourd'hui. Après, c'est aussi une question de nombre de parties, hein. Mais ce qui est chouette avec Res Arcana, c'est vraiment ce côté découverte, tu vois. T'as vraiment un côté découverte permanente. Mais c'était aussi vrai par exemple avec Rise of the Galaxy au début, tu vois, où je connaissais pas le jeu, bah en fait t'as tellement de cartes, t'as tellement de cartes que même si t'embrasses beaucoup dans Rise of the Galaxy, t'en as plus, t'embrasses plus certes, mais t'as aussi beaucoup de stratégies, t'as beaucoup de stratégies possibles, du coup bah tu peux en explorer plein. Et je sais que Rise of the Galaxy, je joue énormément sur tablette donc, en ce moment, et j'ai encore découvert des stratégies possibles, tu vois, 10-15 ans après avoir joué mes premières parties, quoi.
Ouais.
Et Res Arcana, je pense effectivement, il y a ce plaisir de la découverte qui est vraiment assez chouette. Et après, tu peux prolonger, tu vois, avec le côté draft. Donc là, pour moi, c'est un jeu qui devrait rester. Je pense que c'est un jeu qui devrait quand même s'installer dans le paysage.
J'y joue pour.
Alors, je pense que tu vas avoir du mal à la rater ou quel point que je joue. Voilà. Et je pense que les extensions devraient pas tarder.
Ça, oui, ça a l'air d'être tout à fait un jeu.
Ouais, en plus quoi, extension. Ouais, en plus Tom Lehman. Enfin, c'est pas le dernier pour ce genre de truc. Donc il a quand même fait je sais pas combien d'extensions pour Rise of the Galaxy, il y en a
5 ou 6.
Il y a un premier arc avec 3 extensions, un deuxième arc avec 2 je crois et un autre avec une seule. Moi, je sais plus, j'ai un doute. Et Roll Force the Galaxy, il en a fait aussi, il a fait des extensions de pandémie, enfin bon, bref, tu vois, c'est voilà quoi. On peut compter sur lui.
Très bien. Ben merci pour cette découverte, puisque pour moi c'était une découverte. Enfin, j'avais entendu parler de Res Arcana, mais je situais pas exactement de quoi il s'agissait.
Bah, c'est vrai que toi, j'avais fait une seule partie à Cannes et c'était vraiment le jeu. En sortant, tu vois, je savais pas trop, quoi. J'étais mitigé. Il faut vraiment, tu vois, une autre partie pour voir. Et c'est vraiment en enchaînant les parties que tu sens la profondeur du jeu, la subtilité, tu sens les coups que t'as ratés et tout ça. C'est vrai. Donc Res Arcana, donc jeu de Tom Lehman, illustré par Julien Delval, édité par Sandcastle Games et distribué chez Asmodée. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, annoncé pour 30 à 60 minutes, et donc là on est plutôt effectivement dans les clous, hein, 30 minutes à 2 et 60 à 4, peut-être un poil plus, surtout sur les premières parties. À partir de 12 ans, là pareil, je pense que c'est le calibre de difficulté effectivement qui correspond. Oui. Et 31,50€ chez Philibert quand ce sera revenu en stock. Et je ne sais pas quand ce sera. Voilà.
À surveiller donc.
C'est ça.
Eh bien voilà.
Eh bien écoutez, si vous avez aimé cette chronique, hein, n'hésitez pas à venir nous le dire sur le site. Et puis pensez
que vous
aussi,
l'ayez aimé ou pas d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, que vous l'ayez aimé ou pas, hein, tout à fait. Hein. On prend les critiques négatives. Hein. C'était trop long, voilà, dites-le nous. on essaye de pas, mais bon, on n'y arrive pas.
Ceux qui ont trouvé ça trop long, ils sont déjà plus là, je crois.
Ils sont partis. Voilà. Et puis bah si vous avez aimé, parce que bon, à mon avis, si vous n'avez pas aimé, vous ne le ferez pas. Mais voilà, si vous avez aimé, vous pouvez nous le dire aussi via Tipeee, en nous mettant un petit euro par mois par exemple, ça peut être sympa. Et ben on se retrouve le mois prochain, hein.
Bah
il
oui.
Reste encore une chronique à faire pour finir l'année. On sera
tout à fait
le mois prochain, on sera
fin de saison de juin.
Et ben vous chers auditeurs, on vous dit
jouez bien.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans la chronique Proxy Jeux. La chronique. Et bon, avec 8 cartes sur. Alors bon, je vais quand même vite fait regarder dans la règle combien il y en avait. J'aurais pu le préparer, mais bon, comme j'écris pas non plus mon discours complet. Hein. Non, c'est 40 cartes. Je suis en train de voir que j'ai laissé mon paragraphe de la dernière fois, c'est fort ça. Tu peux être un peu dérouté.
Ah oui, non, oui, là j'ai l'air oiseaux,
ouais. Des oiseaux. Excellent. Bon, je sais où j'y étais pas allé parce que du coup on a eu des bonnes explications et puis si je dis des conneries, je l'ai lu la première fois que j'ai lu les règles, mais c'était il y a longtemps. Je me rappelle pas, c'est tout
déjà.
Ouais, non, j'ai bien tout lu en plus, ouais.